السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du mercredi. Du mercredi 23 Muharram 1435 de l'Égir, correspondant 27 novembre 2013, Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes, inshallah ta'ala, avec le 16e cours, le dogme du monothéisme. Le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, je veux dire le titre, là, le titre d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est la méthodologie d'Ahl Sunna ou Jama'a concernant les noms et les attributs d'Allah. Donc, Ahl Sunna ou Jama'a, contrairement aux autres sectes, là, qui sont considérées comme déviantes et égarées, donc Al-Sunna al-Jama'a, ont une méthodologie spéciale en ce qui concerne les noms et les attributs. Quiconque suit cette méthodologie par rapport aux noms et aux attributs, il est de Al-Sunna al-Jama'a. Quiconque ne les suit pas, il a quitté ou bien n'est pas de Al-Sunna al-Jama'a. Quelle est cette méthodologie, bi'idhnillahi ta'ala? On va voir. La méthodologie des gens de la Sunna et de l'unité, que sont les pieux prédécesseurs, Salaf Saleh, et ceux qui les ont suivis, c'est d'attribuer à Allah Azza wa Jal les noms et les attributs tels qu'ils ont été relatés dans le Coran et la Sunna. Donc c'est très simple. La méthodologie des gens de Al-Sunna ou Jama'a, qui sont les pieux prédécesseurs, et ceux qui les ont suivis, c'est quoi? C'est d'attribuer à Allah Azza wa Jal les noms et les attributs tels qu'ils ont été relatés dans le Coran et la Sunna. Et cette méthodologie repose sur les règles suivantes. On va citer quelques règles, trois ou quatre, sur lesquelles repose cette méthodologie. Jusqu'à présent, est-ce que vous me suivez? Alhamdoulilah. Donc, la première règle, ils affirment les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs tels qu'ils ont été mentionnés dans le Coran et la Sunna. Les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs tels qu'ils ont été mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, dans leur sens apparent, avec la signification que désignent les mots employés. Quand on a dit dans leur sens apparent, c'est pas comme font les soufis, etc. Il te dit, non, ce n'est pas ça le sens du verset. Le verset est clair. Il a cité un mot, par exemple, il a cité, je ne sais pas, l'être humain, insan. Il te dit, non, insan, c'est pas l'insan. Insan, c'est par exemple le ciel ou bien la terre. Naam, ça c'est ce que disent par exemple les soufis, etc. Nous on dit non. On affirme les noms et les attributs de la Zawjil, tels qu'ils sont dans le Coran et la Sunna, dans leur sens apparent. Et ensuite aussi, avec la signification que désignent les mots employés, donc ils ne donnent pas d'interprétation allégorique et ne détournent pas les termes et leur sens de ce qu'ils désignent. Vous avez compris deux choses. La première, je dis comme ce qu'il est dit dans l'apparence du verset et du hadith, par exemple. Et deuxièmement, j'atteste la signification que désigne ce mot. Pourquoi on dit avec la signification que désigne les mots employés? Car quelqu'un peut te dire que, yani, Ça a un autre sens, une autre signification. Ou bien je ne connais pas sa signification. Toi, tu dis si. Moi, j'atteste la signification que désigne ce mot. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font aussi? Deuxièmement, ils nient toute ressemblance entre les attributs divins et les attributs humains. Ils nient toute ressemblance entre les attributs divins et les attributs humains. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit, regardez le verset qui va venir, il a dit, ليس كمثله شيء. نعم الذي فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وسميع البصير. Shura 11. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Le témoin, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, Allah Ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Les savants disent, en ce verset, le dernier verset, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ce verset, c'est pour réfuter Naam, deux sectes égarées. La première, qu'on appelle la secte des anthropomorphistes. Anthropomorphistes. J'ai oublié, je n'arrive pas à dire le mot. Si quelqu'un peut l'écrire. Anthropomorphistes. Non, mais ce n'est pas porphistes. Moyen. Ça fait longtemps que je n'ai pas employé ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ils font la ressemblance. Ils ressemblent. Ils ressemblent Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Ou bien les créatures à Allah azawajal. Non, ce n'est pas anthropomorphiste. Il manque quelque chose. Non, mais il manque quelque chose. Donc, le premier verset, quand il a dit rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble. C'est pourquoi? C'est pour réfuter la première secte égarée. Qui fait quoi? Qui fait la ressemblance. Tu lui dis, rien ne lui ressemble. Nam. Et la deuxième, et c'est lui l'audient, le clairvoyant, c'est pour réfuter la deuxième secte. Qui dit quoi? Qui dit que Allah, comme les Jahmites, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, par exemple, de nom, bien n'a pas d'attribut. Tu lui dis, tu as menti. Il a dit, c'est lui l'audient, c'est lui le clairvoyant. Une seconde, je vais vous chercher comment s'appelle la secte. Une seconde. Anthropomorphiste, voilà. Exactement. L'anthropomorphisme. Nam. Donc la première secte, l'anthropomorphisme, qui fait l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la ressemblance. Tu lui dis, rien ne lui ressemble. Naam. Et la deuxième qui dit que Yannila n'a ni nom ni attribut, tu lui réponds par la fin du verset. Tu lui dis, et c'est lui l'audient, le clairvoyant et l'audient. Ou bien l'audient et le clairvoyant. Comme il a dit ça dans le verset, Bi'idhnillahi ta'ala. On continue. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, que font Al-Sunnah ou Jama'a? Troisièmement, Naam. Il n'outre pas. Dépasser les limites. Hein. Il n'outrepasse pas ce qui a été relaté dans le Coran et la Sunna dans l'affirmation, l'ithbat, des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Je répète, il n'outrepasse pas ce qui a été relaté dans le Coran et la Sunna dans l'affirmation. L'affirmation en arabe on dit ithbat, dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Ça veut dire aussi, ils reconnaissent ce que Allah Azzawajal s'est attribué à lui-même ou que son messager lui a attribué. Ils exemptent Allah Azzawajal de ce dont il s'est exempté lui-même et ce dont son messager l'a exempté. Naam. Tout ce que Allah Azzawajal a exempté à lui-même et renié lui-même, ils le renient eux aussi. Et tout ce que le prophète sallam a dit que Allah Azzawajal n'a pas telle et telle chose, tel et tel attribut, Nous aussi, on dit comme a dit le messager, alayhi sallam. Et il ne s'avance pas à propos de sur quoi Allah azzawajal cite ainsi que son messager. Et il ne s'avance pas à propos de ce sur quoi Allah azzawajal situe ainsi que son messager. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un par exemple, va te dire, est-ce qu'Allah azzawajal fait telle chose? Naam. Et toi, tu ne sais pas. Il n'y a pas un verset qui dit il fait, il n'y a pas un verset qui dit il fait pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahu alam. Est-ce que Allah Azza wa Jal, parmi par exemple ses descriptions, par exemple, parmi ses descriptions, par exemple, qu'il adorait? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Allahu Azza wa Jal alam. Il n'a pas dit dans le Coran qu'il en avait, il n'a pas dit qu'il n'en avait pas. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Tayyib. C'est la troisième règle, la troisième règle. Et la quatrième règle, la quatrième règle, il considère les textes traitant des noms et des attributs comme étant explicites, muhkam, c'est-à-dire dont le sens est intelligible et peut être expliqué, et non comme équivoque, mutashabih. Dès lors, ils ne sont pas d'avis que leur sens soit ignoré. Contrairement à ce que certains de ceux qui ont menti sur leur compte ou qui ignorent leur méthodologie disent quoi ils disent? Ils disent, comme c'est le cas de certains auteurs contemporains, qui disent que tu lui dis tel verset, il te dit, il a un sens équivoque. Naam. Tu lui dis tel attribut à fond, ou bien il te dit, Allah al-Mila a un sens équivoque. Il se peut qu'il veuille dire ceci ou bien il veuille dire cela. Ça s'appelle mutashabih. Nous, on dit, il n'y a pas de mutashabih en ce qui concerne les noms et les attributs. Vous avez compris? En ce qui concerne les noms et les attributs, il n'y a pas de mutashabih. Tout est explicite. Tout est intelligible et on peut comprendre son sens. Ce n'est pas comme dans certains versets. D'autres versets, il y a des versets dans le fiqh, dans le divorce, dans ceci, dans le... Non, dans certaines choses. Il y a des versets qui sont équivoques. Non. On ne peut pas comprendre est-ce qu'il a voulu dire ceci ou voulu dire cela, et chacun dans ses délits. Mais dans les noms et les attributs, tout est explicite, muhkam, clair, intelligible, compréhensible, peut être expliqué, peut être compris par tout le monde. Non. Ça, c'est la quatrième règle. La cinquième et enfin, il réserve l'essence de la description. Comment et des attributs d'Allah Azza wa Jal et ne la recherche pas. Taïb, je répète donc, je disais, Naam, une seconde. Il réserve la connaissance de la description du comment des attributs à Allah Azza wa Jal et ne la recherche pas. Ce que vous montre maintenant. Alhamdoulilah. Donc les gens de la sunna et du consensus, qu'est-ce qu'ils font? Ils réservent la connaissance de la description du comment des attributs d'Allah Azza wa Jal et ne la recherchent pas. C'est-à-dire, la sunna ou jama'a ne recherche pas le comment. Comment, quand tu dis qu'Allah Ta'ala a deux mains, comment sont faites ces mains? Allah Azza wa Jal descend. Comment qu'il descend chez lui? Comment qu'il descend? Allah Azza wa Jalla a un visage. Comment est ce visage? Tout cela, Al-Sunnah al-Jama'a ne le recherche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de comment. Si, mais seul Allah Azza wa Jalla connaît le comment, pas nous. Nous, on connaît quoi? On connaît qu'il a des attributs, qu'il a la main, qu'il a le visage, qu'il a les deux jambes, la colère, qu'il a le rire. On connaît les attributs. Mais comment? Comment rit-il? Comment sait-il? De quelle façon? Cela, Al-Sunnah al-Jama'a réserve sa connaissance même à qui? Allah Azza wa Jal. Et ne recherche pas cela parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas de réponse. Ils savent qu'ils n'auront pas de réponse et ce n'est pas la peine d'aller loin toujours dans ce contexte. Toujours les savants citent. C'est entre l'imam, rahimahullah, qui était assis, quelqu'un est rentré chez lui et lui a dit, Ar-Rahman wa al-Arsh. Allah s'est établi au-dessus du trône. Comment qu'il s'est établi? Ensuite, l'imam Malik rahimahullah a descendu sa tête et ceux qui ont rapporté ont dit, on a vu la sueur couler de son front. Tellement il a senti que c'était grave ce qu'a dit la personne. Il lui a dit que, lui a répondu, il lui a dit que yani, l'établissement d'Allah Azzawajal au-dessus du trône est connu. Et la façon, le comment, la maqoul. On ne peut pas le connaître, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le concevoir. Il lui a dit, ou su'alu anhu bid'a. Et le fait de poser une question sur le comment, ça rentre dans la bid'a. Wa araka. Et je vois, je pense que tu es un homme, yani, déviant, qui n'est pas bien. Non. Il a dit, atridu anni. Faites-le sortir de moi. Faites-le sortir de chez moi. Expulsez-le de chez moi. Pourquoi? Parce qu'il veut chercher le comment. Le comment? Seul Allah Azzawajal, comment? Pas nous. Non. Maintenant, on va passer à un autre chapitre qui s'appelle la réfutation. Non. Qui s'appelle la réfutation de ceux qui nient totalement les noms et attributs d'Allah Azzawajal. La réfutation de ceux qui nient totalement et attribué d'Allah Azzawajal. Vous savez qu'il y a des sectes qui ou bien nient tous les noms et attributs, ou bien nient seulement les noms et ne nient pas les attributs, ou bien une secte qui nie quelques attributs si tout, et on reconnaît d'autres. On va voir ça, inshallah ta'ala, avec un peu de détails. On commence par les Jahmites. Les Jahmites. Les Jahmites, c'est-à-dire les disciples de Jahm ibn Safwan. Pourquoi on les appelle Jahmites? Car ils sont les disciples de Al-Jahm ibn Safwan. Ah, tu suis une personne, on dit, on t'affilie à la personne qui nie les noms et attributs dans leur entièreté. Alors les Jahmites, il nie complètement les noms, il te dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom. Et n'a pas aussi d'attributs. Et les savants ont dit d'eux, unanimement, qu'ils sont des kuffars. Ils sont des kuffars. Allah ta'ala n'a pas de nom. Il n'a pas d'attributs. Donc, astaghfirullah, c'est une statue. Et encore, la statue, elle a un nom. Elle s'appelle la statue de la liberté, par exemple, aux États-Unis. La statue de la liberté, voilà son nom. Elle a un nom. Non. Les Jahmites disent que Allah Ta'ala n'a ni nom ni attribut. Donc Allah Ta'ala n'est pas beau. Non. Ne rit pas, ne descend pas, n'a pas les mains, n'a pas les yeux, n'a pas ceci. Tous les attributs, ils disent qu'il n'en a pas. Donc, yani, c'est le néant. C'est le néant. C'est pour ça que les savants disent deux, ce sont des kofars. Donc si vous lisez dans un livre, vous trouvez que X non, était un Jahmite. Ça veut dire qu'il suivait Al-Jahm ibn Safwan, qui lui-même a pris cette âme de quelqu'un qui s'appelle, attendez comment il s'appelle, son nom, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité, Jahm ibn Safwan, qui a pris ça de son maître, Al-Ja'd ibn Dirham. Il a pris ça de quelqu'un qui s'appelle Al-Ja'd. Je vais essayer de l'écrire, Al-Ja'd, Ja'd ibn Dirham, Ja'd ibn Dirham. Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham. Donc, je répète, Al-Jahm ibn Safwan a pris sa aqida de Al-Jahd ibn Dirham, qui lui-même, ibn Dirham, qui lui-même a pris sa aqida d'un juif. Abdullah ibn Saba, le juif, de lui a pris Ja'd ibn Dirham et a donné à Jahm ibn Safwan, et ensuite ça s'est propagé à Oudoubillah. Et ce deuxième, celui-là, ce chef, Al-Ja'd ibn Dirham, a été exécuté. Non, il y avait un calife, j'ai oublié comment qu'il s'appelle, il a fait khutbat l'Aïd. Il est monté sur le minbar, il a fait la khutbah de l'Aïd. Ensuite, avant de descendre, il a dit, Ayyuhal mu'minun, oh maintenant, oh vous les croyants, nam, maintenant, nam, je vous demande d'aller égorger vos moutons, exactement comme je vais maintenant égorger Jaad ibn Dirham, il est du minbar et il a égorgé. Pourquoi? Vraiment, il a dépassé les limites. Vraiment, il a dit dans l'islam des choses vraiment, vraiment graves. Vraiment graves en Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'était dans le siyam, chouïa. Si c'était dans la zakat, chouïa. Dans le hajj, chouïa. Pourtant, ce sont des piliers. Mais il a parlé dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans son entité et son essence, les noms et les attributs. Subhanallah. Et il a été égorgé le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd. Maintenant, je ne sais pas qui a mangé sa tête. Moi, j'aime la tête du mouton. Mais je ne sais pas si on peut manger sa tête. El Mouhim. Donc, on revient. On dit. Ceux qui nient. Eh, non, on avait commencé par les Jahmites. Les Jahmites. Ensuite, il y a qui vont les suivre? Les Mu'tazilites. Les disciples de Fasil ibn Atta, qui reconnaissent les noms en les vidant de leur sens, tout en niant tous les attributs. Allahu Akbar. Avant d'expliquer un peu les Mu'tazilites et de comparer entre eux et les Jahmites, on va donner juste une idée de qui sont les Mu'tazilites. Il y a quelqu'un des Tabi'in, très connu, qui s'appelle Hassan al-Basri. Très connu, Hassan al-Basri. Il était de Bassora en Irak. Très pieux, très, mashallah, très grand. Non, surtout dans l'ascétisme. Il était, il n'avait pas d'égal. Al-Muhim, ce Hassan al-Basri, rahimahullah, il avait comme ça une assise dans la mosquée, disant, Rabbi l'Aïcha, comme ça, disant, tous les 2 jours, là, il s'asseyait. Non, il s'asseyait et il donnait des cours. Dites-moi si vous m'entendez. Parce que quand vous avez écrit, j'ai perdu le micro. Alhamdoulilah. Ensuite, Ma'lish, ensuite, il y a certains gens, certaines personnes, Naam, qui posaient une question. Voici Ibn Atta. La personne qui a posé la question s'appelle comme ça. Il a dit à Hassan Basri, il lui a dit. Et quelqu'un qui fait un grand péché, quelqu'un qui fait un grand péché, que penses-tu de lui? Hassan al-Basri a répondu, c'est un croyant qui a fait un grand péché. Yani, disons, il devient pervers. Enfin, vous savez, quand quelqu'un fait un grand péché, il devient pervers, jusqu'à ce qu'il fasse la tauba. L'autre a répondu, il lui a dit, quant à moi, je pense que il n'est ni croyant, n'am, ni kafir. Et en faisant ainsi, nam, il a un statut entre les deux, ni croyant, ni kafir. Et quand il meurt, il sera éternellement en enfer. Éternellement en enfer. Il a dit, celui qui fait un grand péché. On ne peut pas dire de lui il est musulman parce que il a fait un grand péché. Et on ne peut pas dire de lui il est kafir parce qu'à la base il est musulman. Donc il est où? Il a dit il est au milieu. Ni musulman, ni kafir. Il a cité un exemple. Les savants disent, c'est un exemple pour expliquer. Ils disent comme quelqu'un qui quitte Paris, habite à Paris, quitte Paris pour aller, par exemple, à Grenoble. En cours de route, quand il arrive à la main, une ville entre Grenoble et Paris, ni il ne peut dire je suis à Paris, ni il ne peut dire je suis à Grenoble. Où est-ce qu'il est? Il est dans le milieu du trajet. Ni à Paris, ni à Grenoble. Comme ça, ils ont voulu dire. Celui qui a fait un grand péché, ni à fois, ni, voilà, ni, ni croyant, parce qu'il n'est pas à Paris, ni kafir, parce qu'il est à Grenoble. Ensuite, quand il s'est levé à réfuter leur dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne plus s'asseoir et d'isoler Hassan Basri et de faire une halqa à eux seuls. Comme ça font les gens de la déviance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'on appelle en arabe, i'tazalou. I'tazalou Hassan al-Basri. Ils ont exilé Hassan al-Basri. Ils se sont isolés de Hassan al-Basri.
Donc le verbe en arabe i'tazil, ils ont exilé. Ça a donné les Mu'tazila. Pourquoi? Car i'tazalu. On les appelle les Mu'tazila car du verbe i'tazalu en arabe, ils ont exilé et isolé Hassan al-Basri. C'est pour cela qu'on l'appelle, on les appelle les Mu'tazila. Comme ça, si jamais on vous demande pourquoi on les appelle les Mu'tazila, vous dites car i'tazalu Hassan al-Basri. Et se sont mis à l'écart de lui et ont fait une halqa, yani, entre eux-mêmes. Al-Muhim. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui fait le grand péché, alhamdoulilah, il est toujours croyant. Seulement, c'est un pervers. Et même s'il meurt, il ne sera pas, même s'il rentre en enfer, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas, il ne sera pas éternellement en enfer, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce qu'il a fait seulement un grand péché. Il n'a pas fait le kofr. Il n'est pas mort sur le kofr. Al-Muhim. Ce sont les Mu'tazilites. Bon, alors on revient aux Mu'tazilites. Qu'est-ce qu'ils font? On revient aux Mu'tazilites. Qu'est-ce qu'ils font, les Mu'tazilites? Qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent les noms, les vidents de leur sens. Ils te disent, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'audient, le clairvoyant, c'est lui le miséricordieux, miséricordieux, mais il n'a pas d'attribut. C'est lui l'audient sans avoir l'attribut de lui. C'est lui le voyant sans avoir la vue. C'est lui le miséricordieux sans avoir l'attribut de la miséricorde. Et qui est comme ça? Prends tous les noms et enlève-leur ce qu'ils comptent comme attribut. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient, c'est comme s'il n'avait pas de nom. Non? Quand je dis d'une personne, c'est lui, en parlant de quelqu'un, je dis c'est lui le gentil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la gentillesse. Maintenant, s'il n'a pas l'attribut de la gentillesse, à quoi ça sert que je l'appelle le gentil? Après, dire que Flan est gentil, alors qu'il n'est pas gentil, il n'a pas l'attribut. Donc, ça ne sert à rien. Quand je dis qu'Allah Ta'ala, c'est lui le beau, mais il n'a pas l'attribut de la beauté. À quoi ça sert? Donc je n'ai rien fait. Au contraire, j'ai fait un grand mal. Je lui ai enlevé l'attribut. J'ai vidé le nom. Le nom qui n'a pas d'attribut, on a vu la fois passée. Tout nom avait un attribut. Ça, maintenant toi tu enlèves l'attribut au nom. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement un mot. Un mot qui s'appelle le beau, le gentil, le miséricordieux, le ceci, le cela, et qui ne veut rien dire. Qui ne veut rien dire. Ce sont les Mu'tazilites. Donc vous avez comparé avec les Jahmites. Les Jahmites, les premiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Ta'ala n'a ni nom ni attribut. Et ceux-là, les Mu'tazilites, qu'est-ce qu'ils disent? Allah Ta'ala a des noms, mais pas d'attributs. A des noms, mais pas d'attributs. Sauf entre parenthèses que les noms chez eux n'ont aucun sens. D'ailleurs. Ensuite, il y a les Ash'ari, Abu Hassan al-Ash'ari. Abu Hassan. Avant qu'ils reviennent vers la voie des gens de la Sunna. Et il y a les Maturidites, les disciples Abu Mansour al-Maturidi. Et ces deux, les Ash'arites et les Maturidites, reconnaissent les noms, ils disent l'âme, Allah Ta'ala a des noms, ainsi que quelques attributs, pas tous les attributs, quelques noms, ils reconnaissent tout, mais par rapport aux attributs, ils disent qu'Allah Ta'ala en a seulement quelques-uns. Comme les Ash'arites disent, par exemple, que Allah Ta'ala a sept attributs. Certains disent que les Maturidites disent que Allah Ta'ala en a huit. Wallahu a'lam. Les Ash'arites. Où est-ce qu'on est? Naam. Et les Maturidites. Et les Maturidites. Tayyib. Maintenant, il y a une faute ici, une seconde. On va revenir ici. Les Ash'arites, disciples de Abu Hassan al-Ash'ari, avant qu'ils ne reviennent vers la voie des gens de la Sunna. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Abu Hassan al-Ash'ari, on les appelle les Ash'arites car ils suivaient quelqu'un qui s'appelle Abu Hassan al-Ash'ari. Ce n'est pas le Sahabi, il ne faut pas confondre avec le grand. Oui. Non, celui-là c'est Abu Hassan. Abu Hassan al-Ash'ari. Avant qu'ils ne reviennent vers la voie des gens de la Sunna, car Abu Hassan lui-même était Mu'tazilite. Ensuite, il est une fois monté sur le minbar, et sur le minbar, quand il faisait la khutbah, il a dit: je me désavoue des Mu'tazila, et je m'éloigne d'eux et j'enlève leur aqida comme j'enlève le vêtement que j'ai maintenant sur mon épaule. Il a enlevé son vêtement, il avait une veste ou quelque chose, il a enlevé ça de ses épaules. Il a dit comme ça, je fais par rapport aux Mu'tazila. Et il les a quittés. Et il est allé rentrer dans ce qu'on appelle le maturidisme. Il a suivi Abou Mansour le maturidi. Et ensuite, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, il est revenu vers le minhaj de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Et il a écrit un livre qui s'appelle Ibana. Et dans ce livre, il a montré. Ibana, c'est pour ça s'appelle montrer, pour montrer. Il a montré que il était devenu de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Et il a un livre aussi très important qui s'appelle Maqalat Islamiyya. Et dans le livre Ibana, il a montré que Allah Ta'ala avait le visage, les mains, les yeux, qu'il descendait, qu'il riait. Il a attesté les noms et les attributs de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Est-ce que vous m'entendez? Donc, secte. L'Ash'arite, c'en est plein maintenant, plein dans le monde. Les Maturidites, un peu. Les Maturidites, c'est l'Asie. C'est, je veux dire, Bangladesh, Pakistan, l'Inde. Naam, là-bas, Maturidites, c'est plein. Et de notre côté ici, Algérie, Tunisie, Maroc, surtout Maroc, Algérie, Tunisie, Maroc, Syrie, c'est quoi? Ash'ari. Il te dit, moi, je suis Ash'ari. Et ils vont te dire que les Ash'ari, ce sont eux, Al-Sunna al-Jama'a, les pauvres. Naam. S'ils étaient vraiment des Ash'arites, naam, dans le sens de, ils ont quitté la fausse Aqida comme a quitté Abu Hassan al-Ash'ari, et il est revenu vers Al-Sunna al-Jama'a, on dit d'accord. On dit d'accord. Mais le problème, c'est que vous êtes Ash'arites, c'est-à-dire par rapport à la première étape de Abu Hassan al-Ash'ari. Voilà le grand problème. Vous avez compris. Abu Hassan al-Ash'ari était lui-même, j'avais dit, Mu'tazilite. Ensuite, Maturidi. Ensuite, il est devenu Al-Sunna al-Jama'a. Maintenant, les Ash'ari, ceux qui disent nous sommes des Ash'ari, ils suivent Abu Hassan al-Ash'ari quand il était dans la première phase, quand il était Mu'tazili. Naam. Ou alors dans la deuxième, mais pas dans la troisième. Car si maintenant vous êtes vraiment, Al-Sunna al-Jama'a, donc pourquoi tu dis je suis Ash'ari? Dis-tu Al-Sunna al-Jama'a, puisque Abu Hassan al-Ash'ari est revenu. Il est revenu vers le madhab de Al-Sunna al-Jama'a. Donc toi, pourquoi tu dis je suis Ash'ari? Dis, je suis Al-Sunna al-Jama'a. Ils ne le disent pas. Ils ont peur. Al-Muhim. Maintenant, les Ash'arites, donc c'est quoi leur aqida? Certes, ils sont mieux que les Mu'tazilites et mieux que les Jahmites, car ils reconnaissent les noms d'Allah Azzawajal. Mais pour les attributs, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnaissent seulement 7 ou 8. C'est ça le problème. Ils reconnaissent seulement 7 ou 8. Et ils ne reconnaissent pas les attributs qu'on appelle sifat khabariya. Que Allah Ta'ala, les mains, le visage, les yeux, le rire. Non, tout ça, ils ne le reconnaissent pas. Ils reconnaissent des attributs, les 7, qui sont très connus. Comme quoi Allah Azzawajal, Qadir, à la volonté, à la science, qu'il est vivant, qu'il parle, qu'il entend. Les sept, lesquels, si on va dire que Allah Ta'ala n'a pas ces sept attributs, il ne peut pas être un Dieu. S'il n'entend pas, s'il ne voit pas, s'il n'est pas vivant, s'il n'a pas la capacité, les sept, qui sont, disons, nécessaires, la base. Donc, il nie les autres attributs. Et l'argument sur lequel ils ont tout construit leur doctrine, ils ont tous construit leur doctrine, c'est qu'ils ont prétendu vouloir éviter de faire ressembler, refaire, ils ont voulu, Zama, ils prétendent, ils veulent éviter de faire ressembler Allah Azzawajal à ses créatures. Car certains de ces noms sont également donnés à des créatures. Et elles sont également dotées de certains de ces attributs. Donc c'est pour cela qu'ils disent, moi je dis pas que Allah Ta'ala rit. Pourquoi tu ne dis pas qu'Allah Ta'ala rit? Il te dit car les êtres humains aussi rient. Donc si je dis qu'Allah Ta'ala rit, ça veut dire que je les fais ressembler aux êtres humains, car les êtres humains rient. Et si tu dis qu'Allah Ta'ala descend, il descend chaque nuit. Donc tu l'as fait ressembler aux créatures, car les créatures descendent. Celui-là, il descend de l'ascenseur, celui-là, il descend de la voiture, celui-là, il descend de la monture. Donc toi, tu veux ressembler Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures. Comme ça, ils te disent. Tu lui dis qu'Allah ta'ala a deux mains. Tu dis non. Car si tu dis qu'il a deux mains, tu l'as fait ressembler à l'être humain. L'être humain a deux mains. Donc nous, ça veut dire les Ash'arites, nous, on n'atteste pas ce genre d'attributs. On atteste seulement les sept attributs, comme j'ai dit tout à l'heure, comme quoi il existe, il entend, il écoute, et il parle, et il a la capacité, la science, et tout. Je dis, là, pas d'autre. Et les Ahbesh, vous connaissez, vous avez beaucoup d'Ahbesh en France. Les Ahbesh, ce sont des Ash'arites, qui ont en même temps Maturidites, les deux, ils joignent entre les deux. Et nous sommes des Ash'arites, comme ça. Zama, comme quoi les Ash'arites sont Al-Sunnah, comme ça ils disent. Nous, on est des Ash'arites, mashallah, on est Al-Sunnah. On suit Abu Hassan Al-Ash'ari. Naam, vous le suivez dans sa première phase. Pas quand il est devenu Al-Sunnah ou Jama'a. Al-Muhim, toujours d'après eux, le fait que les termes employés, non les attributs, ainsi que leur signification, soient communs, c'est-à-dire entre l'être humain et Allah Azzawajal, ils disent, ce qui implique, de leur point de vue, une similitude entre la créature et le créateur. Voilà. Faut pas dire qu'Allah Ta'ala les mains, les yeux, etc. Sinon, tu as fait une similitude entre Allah Azzawajal, le créateur, et la création. Ils ont fait face à cela de deux manières. Ils ont fait face à cela de deux manières. On va voir quelles sont les deux manières avec lesquelles ils ont fait face, Naam, et ont contredit Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Premièrement, en interprétant les textes relatifs aux noms et attributs d'Allah Azzawajal d'une manière à les détourner de leur sens apparent. Naam. Ash'ari, par exemple, tu lui dis Allah Ta'ala a deux mains. Naam. Il te dit non, il n'en a pas. Tu lui dis Subhanallah al-Azim, merci. Allah Ta'ala a dit Lima lemtasjud lima khalaqtu biyadayya. Pourquoi tu ne t'es pas prosterné à ce que j'ai créé par mes deux mains? Il a cité les deux mains. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, comme on a dit ici, c'est-à-dire, il détourne leur sens apparent. Il va te dire, oui, c'est vrai, Allah Ta'ala cite les deux mains. Mais il ne voulait pas dire les mains qu'on connaît, nous. Non. Te dire les deux mains, c'est autre chose. C'est par exemple la puissance. Allah Ta'ala, il est fort, très puissant, il a deux mains, c'est ça. Il a voulu dire, j'ai de la puissance, il a employé la main. Il te dit en arabe, c'est connu que on dit X a une forte main. Ça veut dire il est fort, très fort. Non. Je dis, ou bien Cheikh Fawzan Hafidhullah dit, comme le fait d'interpréter le visage par l'entité. Tu lui dis, Allah Ta'ala a cité le visage dans le Coran. Il a dit, wa yabqa wajhu rabbika. Et subsiste le visage de ton Seigneur. Il te dit, le visage ici veut dire l'entité, veut dire Allah lui-même. Comme on a dit la fois passée, te dit, veut dire Allah lui-même. Donc tu lui dis, c'est vrai, le verset veut dire c'est Allah qui va rester, c'est pas autre chose, lui-même, Naam, son entité. Mais, il a un visage, puisqu'il a cité le visage. Je te dis, non, 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 jamais. Allah Ta'ala n'a pas de visage. Le visage, ça veut dire Allah. Au lieu de dire c'est moi qui subsiste, il a dit mon visage va subsister. Vous avez compris comment il détourne le sens. Et quand tu lui dis Allah Ta'ala a une main, il te dit la main c'est la ni'ma. C'est le bienfait. Ou bien c'est la force, comme j'ai dit. Ça, c'est premièrement. Donc en interprétant les textes relatifs et d'une manière à les détourner de leur sens apparent. Deuxièmement, comment qu'ils font aussi? En remettant la signification de ces textes à Allah Azzawajal. En remettant la signification de ces textes à Allah Azzawajal seul sait ce qu'ils signifient, tout en croyant que le sens propre n'est pas celui qui est visé. Les premiers qui se sont fait connaître pour avoir nié les noms et les attributs sont les polythéistes arabes. Ce que Allah Azzawajal a fait référence à eux dans le Coran lorsqu'il a dit. Lorsqu'il a dit, Azzawajal, Ra'd 30. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, c'est-à-dire le Coran, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité par lui, et en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. Le témoin, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. C'est pas ils ne croient pas en Dieu, ils croient en Dieu, eux. Les kofars croient en Dieu, ils disent il y a Dieu, il y a le paradis, l'enfer. Mais ils ne croient pas en son nom, qu'il est le tout miséricordieux. Donc c'était eux, les polythéistes arabes, les premiers à avoir renié, yani, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On revient un peu plus haut. On revient un peu plus haut pour dire, quand on a dit, naam, quand on a dit, en remettant, comment qu'ils font? Ils remettent la signification des textes à Allah azza wa jal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien comprendre. Ils ne remettent pas le comment, comme font Al-Sunnah ou Jama'a, mais ils remettent la signification du texte lui-même. C'est-à-dire, nous par exemple, quelqu'un nous dit Allah Ta'ala a deux mains. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On dit c'est vrai, Allah Ta'ala a deux mains. Mais comment sont-elles? Là, le comment, on dit Allahu A'lam. Seul Allah Azza wa Jalla connaît le comment. Mais eux, ça c'est nous qui disons comme ça, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, carrément, carrément, l'attribut, il remet sa signification à Allah. C'est pas il remet son comment, il remet la signification. Tu lui dis, Allah Ta'ala, à demain. Tu dis, certes, à demain, mais c'est pas ça la signification. Moi, je connais pas que ça veut dire la signification. Tu dis, c'est sûr, c'est pas des mains comme nos mains, c'est sûr. Donc la signification, je la remets à Allah. C'est lui qui sait que ça veut dire les mains. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, nous on sait c'est quoi les mains, mais on ne sait pas c'est comment. Comment elles sont faites, c'est tout. Donc il y a une grande différence entre remettre la signification de l'attribut lui-même à Allah, ce qui est faux, et remettre le comment de l'attribut à Allah. Ça c'est juste. Si ce n'est pas clair, je vais expliquer après, Inch'Allah Ta'ala. Payeb. Donc, il a dit aussi, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ, en parlant des Arabes, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ, c'est-à-dire, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Ibn Jarir, rahimahullah, relate que cela eut lieu lors du pacte de l'Hudaybiyah, lorsque le scribe écrivit lors du traité entre les kofars et le messager alayhi salam, il a écrit, regardez ce qu'il a écrit. Il a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme ça, ils ont commencé à écrire le pacte. Le prophète Islam a fait un pacte avec les kofars. Un pacte. Et il a ordonné qu'on écrive Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence par écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire au nom du tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et les Korachites, les Kofars, contestèrent en disant, quant au tout miséricordieux, nous ne le connaissons pas. Non, le tout miséricordieux, nous ne le connaissons pas. Ils lui ont dit, efface, écrit Bismikallahum, écrit au nom de Dieu, c'est tout. Pas au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Enlève le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc ce sont eux les premiers à avoir nié les noms. Non. Et là, entre parenthèses, le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pacte avec les kofars, comme quoi, pendant 10 ans, il n'y a pas de guerre entre eux. Te dis, c'est interdit de faire un pacte avec un kofar. Le kofar, c'est l'ennemi éternel que tu dois tuer partout. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Regardez le prophète islam, comment qu'il a fait un pacte avec les kofars. En fait, le pacte, quand tu le fais, pourquoi tu le fais? Tu le fais car des fois, tu te trouves dans une situation de faiblesse. Et si tu ne fais pas le pacte, des fois, naam, ils vont quoi, comme on va dire, ils vont te manger. Naam. Donc tu fais le pacte et pendant la trêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te fortifies. C'est mieux pour toi la trêve des fois. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va donner l'occasion de te préparer. Naam. D'étudier, de préparer les armes. Naam. De trouver quelle est yani les armes qu'il faut trouver. Naam. Faire des recherches pour trouver la. Yani des bombes, des je ne sais pas quoi. Vous avez compris? De faire rentrer les gens encore plus dans ton rang en islam. D'engager des soldats. Et en fait, c'est ça. Lorsque le prophète a fait la trêve, après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait la trêve, ils étaient yani, un nombre, yani, ils étaient à peu près 1000 et quelques peut-être. Mais le jour, yani, quelques années après, combien ils étaient lorsqu'ils ont fait, le Ousma, ils ont ouvert yani, le fait, la conquête de la Mecque, ils étaient, subhanallah al-Azim, 10 000 ou 100 000. Naam, 2 mois. S'ils étaient 10 000 pendant la trêve, après ils sont devenus 100 000. S'ils étaient 1 000, ils sont devenus 10 000. Comme ça dit Ibn Hajj, il a dit 10 fois plus. Le nombre a augmenté de 10 fois plus. Subhanallah al-Azim. Naam. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah, une fois il a parlé de ce qui se passait à Gaza, ou de ce qui se passait en Palestine. Et il a dit quoi? Il a dit, moi je pense, Wallahu ta'ala alam, que s'ils faisaient, les Palestiniens, s'ils faisaient une trêve avec les Juifs, ce serait mieux pour eux. Pourquoi il a dit ça? Il s'est basé sur la trêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La trêve de l'Hudaybiyah. Combien qu'ils étaient, ils sont devenus 10 fois plus nombreux. Ils ont conquis quoi? Ils ont conquis la Mecque. Subhanallah. Et c'était la conquête de la Mecque. Jamais le coffre n'est devenu à la Mecque depuis ce jour. Al-Muhim. Quand il a dit ça, les takfiris et les djouhad, et les ignorants et les ignares et les ânes, qu'est-ce qu'ils ont de lui? Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont dit, il est devenu, je crois, pervers ou bien kafir. Classe, il aime les kofars, il veut faire des pactes avec les juifs. Les juifs, il faut les tuer, enlever leur tête, ceci, cela. Commencer à dire n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Ce qui montre, Allah ibarak, le niveau qu'avait Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Toi, tu es mieux que le prophète Ali. Tu es plus courageux que lui. Tu connais mieux le dîn que lui. Tu détestes les kofars plus que lui. Et il a fait la trêve avec eux. Naam. Quand on te dit qu'il faut faire la trêve avec les juifs, si tu es faible et que tu n'as que ce moyen pour qu'ils te laissent tranquille, et tu peux travailler, tu peux engager, tu peux... Tu dis non, je ne fais pas avec les kofars, moi je ne suis pas fou. Parce que tu ne connais pas le dîn, c'est tout. Tu ne connais pas le dîn. Si tu connaissais le dîn, tu aurais fait comme le prophète islam et tu aurais dit ce qu'a dit l'Albani, c'est vraiment mashallah. Subhanallah, je n'ai jamais pensé à ça. Je ne savais pas que je pouvais faire une trêve avec les kofars. Et si maintenant, par exemple, il n'y avait pas les trêves qu'il y a maintenant entre nous et les kofars, aux Nations Unies, et maintenant les visas qu'on donne pour entrer dans les pays, s'il n'y avait pas, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait arrivé que, yani, maintenant que ils peuvent, ils peuvent facilement se grouper sous ce qu'on appelle le NATO, ou bien le NATO, quelque chose comme ça. Hein. Vite, tous les pays d'Europe, ils se mettent d'accord contre un pays, comme ils ont fait avec l'Irak et la Libye, avec n'importe quel pays ils veulent. Hein. En 2-3 jours, ils te quoi? Ils t'exterminent, ils t'enlèvent, l'OTAN. Hein. Pas l'OTAN, il y a autre chose, qu'on appelle NATO ou bien NATO, c'est-à-dire seulement certains pays, la France, l'Angleterre, la Chine, c'est connu, 15 je crois ou 10, l'Australie, le Canada, Enfin, vite, ils ont une réunion entre eux et ils décident d'attaquer un pays. Subhanallah. Les 12 pays, voilà, je crois qu'ils sont 12. Peut-être c'est l'autre, Allah alam. Mais quelque chose qui commence par N. Non, quelque chose qui commence par N. Sauf si on dit ça seulement en arabe, Allah alam. Al-Mouhim, on revient où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on était. Si quelqu'un trouve le nom, il nous le dit. C'est comme ça, Nato ou quelque chose comme ça. Non. Nato ou Neto, quelque chose comme ça. Al-Mouhim. Peut-être c'est l'OTAN, yani appelé d'une autre façon. Appelé d'une autre façon, d'une autre langue. Allahu alam. Quand le prophète islam disait le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ah voilà, Nathan autant en Europe. Jazakallah. Donc d'ailleurs, ça comprend les mêmes lettres. Ça comprend les quatre lettres. Donc quand le prophète disait au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'un côté ils ont dit on ne connaît pas c'est qui le tout miséricordieux, de l'autre ils ont dit le prophète, Naam, invoque deux divinités. Il invoque le miséricordieux et il invoque le très miséricordieux. Il n'a pas un seul Dieu. Dieu, il en a deux. Naam, le très miséricordieux et le miséricordieux. Subhanallah l'adhim. Subhanallah l'adhim. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il révéla le verset qui dit. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الاسراء 110 الاسراء 110 الله تعالى révélé le verset dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux quel que soit le nom par lequel vous l'appelez il a les plus beaux noms Naam, c'est ça le témoin du cours et dans ta salat etc ça n'a pas rapport avec le cours dit invoquez Allah ou invoquez miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Il a les plus beaux noms. Naam. Et ensuite, il a descendu aussi un autre verset. Furqan 60. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman. Qalu wa man rahman? Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Et quand on leur dit, prosternez-vous devant le tout miséricordieux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, que donc le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes? Et cela accroît leur répulsion. Non, ils nient donc que Allah Azzawajal a yani, le nom de tout miséricordieux. Et ils ne savent pas. Ils disent, qu'est-ce que donc le tout miséricordieux? Nous, on sait qu'il y a Dieu, c'est tout. Nous allons donc nous prosterner devant ce que tu nous commandes? C'est pas possible. Ces polythéistes des Cheikh Fawzan Hafidhahullah sont les précurseurs des Jahmites. Sont les précurseurs des Jahmites, des Mu'tazilites, des Ash'arites et de tout ce qui nie Allah Azzawajal, non, ce qui nie Allah Azzawajal, ce qu'il s'est attribué ou que son messager alayhi lui a attribué comme nom et attribut. Le Cheikh dit, quel mauvais prédécesseur pour de mauvais successeurs. Ensuite, le shirk. La réfutation de ces groupes s'opère à plusieurs niveaux. Le premier niveau. On va voir le premier niveau maintenant, bi-idhnillah ta'ala. Tayyib. Le premier, c'est que Allah Azzawajal s'est attribué lui-même des noms et des attributs, ainsi que son messager, alayhi salam. Or, les renier totalement ou partiellement revient à ce que Allah Azzawajal et son messager ont affirmé. Revient à quoi? À nier. Naam. Revient donc à nier. J'ai oublié le mot nier, c'est très important. Revient à nier ce que Allah Azzawajal et son messager ont affirmé. C'est comme ça qu'on refute. On leur dit, Allah Azzawajal, lui-même, subhanallah al-azim, s'est attribué des noms et des attributs. Et le messager, alayhi salam, qui a été envoyé par Allah, et qui est le plus savant sur les noms et les attributs d'Allah, qui connaît Allah Ta'ala mieux que toutes les autres personnes. Alors, ces deux, c'est-à-dire Allah et son messager, Naam, est que Allah Ta'ala a des noms et des attributs. Alors maintenant, si on les renie, soit totalement, partiellement, cela revient à quoi? À renier ce que Allah Azzawajal et son messager ont affirmé. Vous avez compris? Donc Allah Ta'ala dit, j'ai tel attribut. Toi, tu dis non, il n'en a pas. Ça veut dire que tu renies ce que dit Allah Ta'ala et son messager, qu'il connaît mieux que tout le monde. Allah Ta'ala a tel et tel attribut. Toi, tu dis il n'en a pas. Donc, ça revient à renier ce que Allah. Voilà. Quand il y a quelque chose à corriger, corrigez-la vite. Comme ça, ça c'est la première façon de renier, de refuter. Comment qu'on leur dit? On leur dit, puisqu'Allah Ta'ala et son messager ont attesté cette chose, si maintenant nous on va la renier, ça veut dire on a renié ce que Allah Azzawajal et son messager ont affirmé. La deuxième, le fait que ces attributs se retrouvent dans les créatures, ou que certains de ces noms puissent être donnés à certaines d'entre elles, ça n'implique nullement une simulation d'Allah Azzawajal de sa création. Eux, ils disent, on ne dit pas que Allah Ta'ala a des noms et des attributs. Pourquoi? Parce que ça va relier à quoi? Aux personnes, aux êtres humains. Si tu dis que telle personne, si tu dis que Allah Ta'ala c'est miséricordieux, on peut dire d'une personne qu'elle est miséricordieuse. Donc ça fait une similitude entre Allah et la personne. Si tu dis que Allah Ta'ala a deux mains, ça veut dire que, yani, tu as fait aussi une similitude, car les personnes ont deux mains. Et comme ça. C'est pour ça que nous, que Allah Ta'ala a, yani, les noms et les attributs, ou bien certains noms et certains attributs. Comme ça, ils disent. Nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit le fait que ces attributs se retrouvent dans les créatures, ou que certains de ces noms puissent être donnés à certains d'entre eux, ça n'implique nullement une similitude entre Allah Azzawajal et sa création. Pourquoi? Car Allah Azzawajal possède des noms et des attributs qui lui sont propres. Tout comme les créatures ont des noms et des attributs qui leur sont propres. Tout comme Allah Azzawajal, par exemple, a une naissance. Allah Ta'ala a une naissance, une entité, qui n'est pas analogue à l'essence des créatures. La même chose. Il a des noms et des attributs qui ne sont pas analogues à ceux des créatures. Vous avez compris? On va dire à ces gens-là, on va leur dire, vous ne vous attribuez parce que vous les créatures ont, yani, nos attributs qui ressemblent. Allah Azzawajal, qu'on a notre entité, notre âme, on l'a, Allah Azzawajal, on a sa propre âme, entité ou bien on n'en a pas. Vous êtes obligé de dire il en a. Sinon, cela n'existe pas. Il ne peut pas exister sans avoir une entité, ça, et une essence. Ils vont dire, elle a une entité, une essence. Et leur dire, est-ce que son entité ressemble à l'entité des êtres humains? On va leur dire donc la même chose. Comme son entité ne ressemble pas exactement, et elle ne ressemble pas à l'entité, aux entités des êtres, des personnes, de même, ses attributs et ses noms ne ressemblent pas aux noms des personnes. On va donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Je disais, non, le fait que Allah Azzawajal, le fait que Allah Azzawajal ait des noms qui nous ressemblent, comme nous on a des noms. Par exemple, lui, il s'appelle, par exemple, le miséricordieux. On peut dire d'une personne qu'elle est miséricordieuse. Allah Azzawajal dit de parmi ses noms, l'odiant, il entend. Et toutes les personnes, ou encore beaucoup de personnes, sont odiantes, elles entendent. Allah Azzawajal, c'est le voyant. Et beaucoup de personnes sont voyantes. Donc, c'est le même nom, mais Nam, le comment n'est pas le même. C'est-à-dire, là, entend et moi, j'entends. Moi, j'entends avec des oreilles. Et dans les oreilles, j'ai le tympan. Et dans le tympan, il y a des choses. Il y a la balance. Il y a mille et une choses que je ne connais pas. Allah Azzawajal, ce n'est pas comme ça qu'il entend. Mais il entend. Moi, je parle. Et pour parler, j'ai la langue. Et je dois avoir des dents. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière la langue. Comment qu'on appelle ça? Pour pouvoir parler. Allah Azzawajal parle, mais ne parle pas de la même façon que moi. Donc, le fait que les deux on parle et que les deux on entend et que les deux on voit. Ça ne veut pas dire que c'est de la même façon. Quand je dis que j'ai une culotte à la main, nam, ça ne veut pas dire que ma main est comme la sienne. Et que sa main, azzawajal, contient yani, les pommes et contient des nerfs qu'on voit comme ça entre, yani, sous la peau et contient du sang et contient. Non. C'est pour ça que, comme disent les savants, ils disent, si tu dis par exemple que Allah Ta'ala n'a pas de main, tu es devenu kafir. Et si tu dis que Allah Ta'ala a des mains comme les miennes, tu es devenu kafir. Comme dit Ishaq ibn Rahawi. Il faut savoir et apprendre comment rester au milieu. Les sunna ou jama'a sont connus pour avoir été toujours au milieu. Au milieu. Non. Vous vous dites que Allah Ta'ala n'a pas de main. Nous on dit il a les mains. Vous vous dites que Allah Ta'ala a des mains qui nous ressemblent. Nous on dit Allah Ta'ala a des mains mais ne nous ressemble pas. On est au milieu entre ceux qui font l'anthropomorphisme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui font la ressemblance, et ceux qui font la négation. Ils disent il n'en a pas du tout. Donc certains, ou bien ils nient carrément, te disent il n'a pas de mains, et d'autres, le contraire, sont opposés, ils te disent il en a. Et exagère. Et comment il exagère, il te dit des mains qui nous ressemblent. Et elles sont au jama'a, sont au milieu. Allah Ta'ala a deux mains, mais pas comme mes mains. Allah Ta'ala a deux yeux, pas comme mes yeux. Allah Ta'ala entend, pas comme moi j'entends. Le comment seul il le connaît. Non. Allah Ta'ala voit, pas comme je vois moi. Avec les yeux qui ont des cils, la pupille ou comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi. Non. Non. D'une autre façon. Le comment, lui, il le connaît, Allah Azza wa Jal, pas moi. Non. Les pupilles. Non. Je donne un le mot main. Main. Main seulement, non, ça n'a pas de sens. Jusqu'à ce que je l'affilie. Ça dépend à qui je vais l'affilier. Si je dis main d'une personne, ah, j'ai compris. Je vois à peu près comment est sa main, avec des ongles, des veines, etc. Je vois comment qu'elle est à peu près blanche, noire, brune, même. Si je dis main de singe, hop, c'est autre chose. C'est devenu un peu plus longue, avec des ongles plus longs, avec velus, point de poil. Et ensuite, si je dis main, par exemple, main de. Si on appelle ça, main de lion. Là, de main et de jambes. De pieds. Non, c'est autre chose. Avec des griffes, avec ceci. Si je dis les mains du chameau, c'est autre chose. Ça a des sabots. Et comme ça change d'après la filiation. Si je dis la main du couffin, on dit que le couffin a une main. Le sac a une main. Non, ça devient autre chose. Subhanallah, ce n'est plus quelque chose qui a des doigts ni des ongles. C'est tout à fait autre chose. Donc toi, tu reconnais que l'attribut lui-même, Koufa, n'est pas la main de la personne, ni celle du singe. Alors qu'en est-il de la main d'Allah? Tu viens de reconnaître que la main change de forme d'après la filiation à qui tu l'as filée. Qu'en est-il maintenant quand tu dis main d'Allah? Naam. Est-ce que ça veut dire qu'elle ressemble aux mains des personnes? Sûrement pas. Non, archi sûr que pas. Sinon, ça rentre dans le coffre et l'anthropomorphisme et la ressemblance. La ressemblance. Non. Regardez en arabe, par exemple, en arabe. Il y a le mot ras. Ras. Attendez, je vais essayer de l'écrire. Ras. Non, vous m'entendez? Vous m'entendez? Quand je dis tête, tête, ça veut encore rien dire. Ça dépend de l'affiliation. Quand je dis la tête d'un homme, ah, je vois comment qu'elle est faite. Si je dis la tête d'un singe, ça change aussi. la tête de la fourmi, la tête de l'éléphant, et comme ça commence à changer, subhanallah. La tête de la parabole, barakallahu fik. La tête de la montagne, la tête de la montagne, ça s'appelle le sommet. La tête de la montagne. La tête de liste, barakallahu fik. Tête de liste. X, il est en tête de liste. Et si vous saviez en arabe, surtout en arabe, la tête c'est ras, ras. En arabe, ça a beaucoup, ça change beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contextes où on peut mettre le mot tête. Regardez, je vous donne un exemple. On dit, par exemple, Rasul Jabal, Ras crayon, barakallahu fik, la tête du crayon. Non, on dit, en arabe, on dit Al-Mal, Rasul Mal. Vous savez ce que ça veut dire Rasul Mal? Le capital. L'argent qu'on a comme capital, on l'appelle Rasul Mal, la tête de l'argent, capital, c'est pas l'aladim. On dit d'un groupe, on dit X, c'est leur tête, c'est-à-dire leur gourou. Comme a dit le prophète Aslam, qu'à la fin du monde, il y a certains gens qui vont prendre des gens de la bid'a comme tête. Il a dit comme ça, des têtes de Juhel. Donc, ensuite, la tête de l'aiguille. Une aiguille est là, la tête. La tête, c'est juste le trou, là où on fait passer le fil. Ça s'appelle la tête. Et comme ça. Donc, vous voyez, le mot tête, ça a changé d'après la filiation. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tête, ça ressemble, une tête, ça ressemble à toutes les têtes, non? Même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on affilie une chose que nous on a et que lui il a et qui se ressemble par le nom, ça s'appelle main chez nous, main chez lui, yeux chez nous, yeux chez lui. Non, la tête peut le temps. Non, surtout dans la course. Des vélos, etc. On dit flan, foulan, il est à la tête du peloton. Non, mais comme ça ne veut pas dire la tête, yani avec les yeux, la bouche, etc. Donc ça change d'après la filiation. C'est comme ça. Ensuite, en une seconde, je vais vous donner un verset important. Regardez ce verset qui va venir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'aide pour le trouver facilement. قالت اليهود يد الله مغلولة مغلولة جو فيكخيغ مغلولة بتيتر كيل فا مدوني مغلولة مغلولة غلت ايديهم نعم regardez ce verset qui va venir regardez ce verset وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الى اخر الايه. Regardez ce verset. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Allah Ta'ala a répondu que leur propre main soit, attendez, j'ai pas le verset ici, soit fermée. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Ensuite, il a dit que ses deux mains étaient largement ouvertes. Largement ouvertes. Naam. Donc, il y a les négateurs. Les négateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main. Et il y a les exagérateurs, comme les juifs, qui disent qu'Allah ta'ala a les mains. Ils ont reconnu, ils ont dit qu'Allah ta'ala avait des mains. Mais ils ont dit que ses mains étaient fermées. Donc, ils ont exagéré. Ils ont attesté la main, mais exagéré. C'est pour ça que j'ai dit, il y a toujours deux sectes opposées. Et elles sont toujours au milieu. Les sectes opposées. La secte qui nie, qui dit Allah Ta'ala n'a pas de main. Non, comme les Jahmiyyat, les Mu'tazilites, les Ahbash, etc. Et les autres qui disent quoi? Qui exagèrent. Ils disent, si, Allah Ta'ala a la main, mais il lui donne quoi? Il lui donne, yani, un défaut. Non, les Juifs ont dit que Allah Ta'ala avait la main, mais sa main était fermée. On reconnaît qu'il a la main, mais on lui donne le défaut d'être quoi? D'être fermé. Et Al-Sunnah al-Jama'a disent, ils attestent qu'il y a la main et éloignent le défaut d'Allah Ta'ala et disent qu'elle est ouverte, largement ouverte. Al-Sunnah al-Jama'a sont toujours au milieu. Au milieu. Ni je dis qu'il n'a pas de main, je deviens kafir. Ni je dis qu'elle a tel et tel défaut, je deviens kafir. Je reste au milieu. Il a la main, une main qui lui convient, une belle main, une main ouverte, une main généreuse. Et comme ça, Allah l'adhim. Voilà, je préfère m'arrêter aujourd'hui ici pour ne pas vous compliquer les choses. Et dans le prochain cours, inshallah ta'ala, on termine comment yani, réfuter, inshallah ta'ala, à ces gens leur doctrine, bi'idnillahi ta'ala. Subhanak lamo bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que aujourd'hui, inshallah ta'ala, que vous ayez beaucoup de questions dans les noms et les attributs, inshallah ta'ala. Surtout pour ceux qui sont nouveaux et qui ne comprennent pas encore bien ces choses, pour que ça ne se complique pas chez eux et qu'ils comprennent une fois pour toutes. Ensuite, c'est clair quand ils lisent des livres et qu'ils font des débats avec entre eux et entre elles. Yani, ils connaissent, inshallah ta'ala, où est le défaut et comment le Coran wa ta'ala. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a du son? On va faire baraka fawzi. Comme d'habitude, Inch'Allah, donc le second salon est ouvert. J'apprends l'islam sur la vraie voie bis. Et sur ce salon, donc on demande à tous les frères et sœurs qui ont des questions sur le cours, donc de ce soir, sur les cours précédents, hein, sur la aqida qui a été fait par le shir. D'y aller et de lever la main, Inch'Allah. Et le frère Fawzi, on se chargera de venir récupérer toutes les questions. Donc vous aurez compris que votre PV doit être ouvert, au moins à Fawzi, Inch'Allah, pour qu'il puisse récupérer toutes les questions. Et faites un effort et ne rusez pas, n'essayez pas de poser des questions qui n'ont aucun rapport avec le cours, car pour nous c'est difficile de les trier. Et parfois au moment où on commence à lire la question, on remarque qu'elle n'avait rien à voir avec le cours. Donc, barakallahu fik, faites un effort de votre côté, barakallahu fikoum, pour que la question ait bien rapport avec le cours, ce qui a été dit, ou sur les autres cours de Aqida qui ont été faits par le cheikh, pour qu'on puisse bien sûr faire passer le maximum de questions et permettre aux frères et sœurs qui ont des questions d'ordre général, donc là c'est sur le salon du cheikh, les personnes qui lèvent la main, Inch'Allah, pour qu'ils puissent également poser des questions. Là, par contre, ça me concerne, Inch'Allah. Les questions d'ordre général, c'est moi qui viendrai donc les récupérer. Donc, faites en sorte que votre PV me soit ouvert. Donc, les personnes qui lèvent la main sur le salon du cher. Barakallahu. Et si ce n'est pas clair, Inch'Allah, donc il y a plusieurs admins. N'hésitez pas à leur poser des questions, Inch'Allah. Ils sont là pour ça.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنتم جاهزون إن شاء الله؟ توكل على الله عز وجل pour la première question.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. Nam Fawzi, donc je t'ouvre le PV. Première question, question d'un frère. Cher, Allah, beaucoup de frères salafis prétendent que les écoles en Égypte sont de mouvance ash'arite. Et beaucoup de savants ont des tendances ash'arite. Que pouvez-vous dire? Sur cela, Yachir Barakallahu Fekoum, pouvez-vous me répondre en arabe, cher? Tfadal, cher.
Non, je vais répondre, inchallah ta'ala, en arabe. Et ça aurait été préférable qu'il aurait posé sa question en arabe aussi. Comme ça, c'est mieux que la poser en français. Ensuite, d'éveiller yani, la curiosité de connaître la réponse. Non, pour un francophone, ensuite, la réponse lui vient en arabe et il ne comprend rien. Vous avez compris? Mais si c'était tout en arabe, il n'aurait pas su ce qu'on a dit. Je ne sais pas si vous avez compris. Le mohim. نعم مثل ما قال السائل يعني أكثر المدارس في واسمها في مصر وفي في أكثر بلدان العرب هي على المذهب الأشعري مع الأسف مع الأسف ولهذا لابد الإنسان أن يتحقق لحظة أيوا vous m'entendez الآن ومتوندي الحمد لله قلت أكثر المدارس في مصر وفي أكثر البلدان العربية هي مع الأسف على المذهب الأشعري، ولهذا لابد الإنسان إذا أراد أن يدرس في أي مدرسة أن يتحرى، نعم أن يتحرى يعني الأساتذة وأن يسأل عنهم وعن المنهاج وعن العقيدة، وإلا فسيتعلم يعني ما يرجع عليه بالوبال والعياذ بالله. نعم تفضل. والله دوزيام كيسيون إن شاء الله تعالى، تفضل.
Alors, question suivante. Question d'un frère. Qu'Allah vous augmente davantage dans la science de la religion. Voici ma question. Concernant la secte des Tekfiri, comment peut-on les classer? Ash'ari, Maturidite, Jahmite. Pouvez-vous m'expliquer, cher Barakallahu fikoum? Tfadal, cher.
En fait, les takfiris ont un mélange de tout. Un mélange de tout. Toutes les sectes, tu les trouves à l'intérieur. Ash'arite, Maturidite, Mu'tazili, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que les takfiris, les khawarij, sont la secte, comme on dit une salade, voilà, une tchouka, sont la secte, et l'une des sectes les plus ignorantes parmi les musulmans. Ce qui l'intéresse, c'est de connaître yani, deux ou trois versets qui ont rapport avec celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah. Ensuite, toute autre chose n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est juste comment faire sortir un musulman de l'islam et d'attester qu'il sera éternellement en enfer. Essayer de faire le contraire, de faire le possible pour faire rentrer un kafir en islam. Non, ça c'est pas leur but. Leur but n'est pas le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit à Ali radiallahu ta'ala anhu, il a dit si Allah ta'ala guidait une personne et tuait le sabab, c'est mieux que Humr al-Na'am, c'est mieux que les chamelles rouges. Si tu arrives à faire rentrer un kafir en islam, eux non, ils font tout leur possible pour faire sortir un musulman de l'islam. Subhanallah al-Azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc je disais, ce sont, yani, les plus djuhal qui existent sur la scène avec les tablir, bien sûr. Et leur aqidah, c'est une khalouta tchouka. Il y a tout à l'intérieur. S'ils ne connaissent pas la moindre chose dans le fiqh, comment veux-tu qu'ils connaissent des choses dans la aqidah? Tfadl.
Question suivante, cher. Question d'un frère. Ahsanallahu ilaykoum, cher.
Non, à fond du désagrément pour ne pas oublier l'idée juste. Ça me rappelle maintenant l'une des têtes du takfir. Quand une fois, cette tête est rentrée dans le salon et a dit que yani, c'était permis en islam. C'était permis, tête du peloton. C'était permis un gourou. C'est permis en islam. Non, c'est permis en islam à, disons, domestique. L'abd, qui s'appelle le domestique, ou je sais pas comment il s'appelle, le valet, ou là, le serviteur, ou là, le mohim, l'abd, c'est permis pour lui, naam, qu'il se marie avec une mère. A'oudou billah. Je lui ai dit ce mot. Ça, c'est permis en islam. Il dit naam, ça, c'est ton islam, c'est permis. Je lui ai dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui sont témoins ici avec nous dans le salon. Ça fait à peu près 5 ou 6 ans que ça s'est passé. Je lui dis, écoute, je te donne un certain temps. Un mois, 2 mois, 3 mois, va faire des recherches. Hein? Et, non, il a dit, j'ai des preuves, j'ai des preuves. Voilà, ça fait longtemps. Je lui dis, il n'y a aucune preuve dans cela. Mais chauffe, je te donne, yani, une trêve. Je te donne un, deux, trois, va chercher. Tu ne vas pas trouver, mais va chercher. Viens dans le salon, demande qu'on te donne le micro et donne tes délils que voilà, ça existe en islam. Et moi, je ferme le salon et je vais plus donner de cours. Il m'a dit d'accord. Ensuite, une fois, on était dans le salon quand le gourou est rentré. Il a demandé le micro. Moi, j'ai pas remarqué. Ensuite, il a écrit en bas, en privé, comme ça. Nam, esclavage, dame. Il a dit, j'ai ramené les preuves. Et il a donné quoi? Il a donné la preuve, Zama, un hadith qui disait comme ça. Ensuite, je lui explique, je lui ai dit Allah yahdik. Et Allah yahdik, qu'il puisse Allah Azza wa Jal te faire apprendre ta religion. Ce hadith, Ibn Hajj al-Asqalani a dit, en expliquant, il a dit, quant à son sens, les savants ont divergé en 15 paroles, en 15 sens, chacun donné, voilà à peu près son sens. Il parlait du hadith où le prophète a dit qu'à la fin du monde, d'après les signes, parmi les signes de la fin du monde, c'est que la femme va enfanter, yani, Rabbaha et Rabbataha, les deux sont authentiques. C'est-à-dire, la femme va enfanter celui qui va la commander. Ça. Et je lui ai expliqué quel est le vrai sens de ce hadith. Non. Et depuis ce jour, bien sûr, il n'a plus relevé la tête, bi'iznillahi ta'ala, comme en islam, yani, c'est permis à quelqu'un qui se marie avec sa mère. Qu'il soit esclave ou n'importe qui, ça n'existe pas ça en islam, ni dans aucune religion, aucune vraie religion. Non, ça n'existe pas que quelqu'un se marie avec sa mère, ni avec les mahram. Les mahram, le a fait l'inceste, c'est-à-dire a fait la zina avec sa soeur, ou avec sa mère, ou avec sa tante, ou là, même chez les kofars, etc., la plupart, je dis, des kofars, ils ne permettent pas l'inceste. Il dit, c'est interdit de se marier avec qui? Avec Yannis, sa soeur, sa fille, etc. Je parle des religions qui sont venues du ciel. Non. Qu'on appelle les gens du livre. Ça n'a jamais existé, ça, chez eux. Par contre, chez les athées, chez les bouddhistes, les religions comme ça qui adorent les statues, etc., il est possible. Wallahu ta'ala alam. Ça me rappelle une fois, quand j'étais au Koweït, je suis sorti de la mosquée Salat al-Isha. Il y avait avec moi le mouadhin qui travaillait avec moi dans la même mosquée, qui était égyptien, un bon ami à moi, mashallah. On est sorti, il m'a dit, regarde, regarde en face. Qu'est-ce qu'il y avait en face? En face, ce sont comme ça des maisons pleines de guirlandes, comme ça une maison parmi les maisons, guirlandes et de lumière et de je ne sais pas quoi. Ah, je lui ai dit, subhanallah, qu'est-ce qu'il doit y avoir là-bas? Il m'a dit, tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Lui, ça, il s'était déjà renseigné. Il m'a dit, il y a un sikh. Un sikh. Attendez, je vais l'écrire. Sikh. En arabe, on dit sikh. Sikh. Vous savez que ça veut dire sikh? C'est un adepte d'une certaine religion de l'Inde. En Inde, vous savez, il y a 10 000 ou 100 000 religions. Là, voilà, hindou. Et ça vient du mot arabe shir. Et ceux-là, les sikhs, yani, zama pour eux, ils joignent entre l'islam et le bouddhisme. C'est pour ça qu'eux, ils disent, tu dois suivre un shir. On les appelle shir. Shir. Ça veut dire, tu dois avoir un shir. Un mohem. Mais ce sont des kofars. Il m'a dit, tu vois les guirlandes là-bas, ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il est considéré musulman, ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas dans cette maison? Il m'a dit, un sikh vient d'avoir un enfant. Il avait un garçon, il est content. J'ai dit, c'est bien ça. Il m'a dit, mais tu sais comment qu'il a eu ce garçon? J'ai dit, non. Il m'a dit, on lui a envoyé un télégramme ou je ne sais pas, un téléphone. On lui a dit, ta femme vient d'avoir un garçon là-bas. Il a dit, parce que lui, quand il était dans son pays, il a laissé à son frère, Yanné, il lui a laissé la tâche. Il a dit à son frère, voilà, moi je vais au Koweït, je vais rester des années, je ne reviens pas. Je te laisse ma femme, l'âme. Tu peux faire avec elle ce que fait l'homme avec sa femme, c'est que tu peux être à ma place. Et après, on lui a téléphoné, on lui a dit, Masha'Allah, yani ta femme vient d'avoir un garçon, un beau garçon, Masha'Allah, avec des cheveux blonds, yeux bleus, Masha'Allah, Masha'Allah. Il a fait des guirlandes et il a dansé toute la nuit. Il était très content, Masha'Allah. Allah yahdina, Allah yahdina, Subhanallah, c'est ajib, Allah, c'est ajib. Tfadl. Comme a dit Allah Ta'ala, celui à qui Allah Ta'ala ne donne pas de lumière, il ne sera jamais illuminé. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui à qui Allah Ta'ala ne donne pas de lumière, il ne sera jamais illuminé. A'udhu billah. Il laisse sa femme à son frère, il est content. Il est content, il fait une fête. A'oudhou billah. Comment les concepts se renversent quand on suit le shaitan.
Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve, Allah nous musta'an. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Cher, une sœur dit, vous avez dit que celui qui fait des grands péchés et entre. Vous avez dit que celui qui fait des grands péchés est entre le paradis et l'enfer. Malgré tout, il ne résidera pas éternellement en enfer, et je pense qu'après avoir fait Taouba. Pouvez-vous nous rappeler les grands péchés en islam qui nous font entrer en enfer? Barakallahu fikoum. Fadal cher.
Non, ce qu'a dit la personne ici, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Et ce n'est pas comme ça à 100%. J'explique. Quelqu'un qui fait un grand péché. Non. Ou bien il meurt avec le grand péché, ou bien il fait tawba. S'il fait tawba avant de mourir et que Allah Ta'ala a accepté son repentir, il remplissait les conditions, il n'y a plus de problème, mais idhnillahi ta'ala. C'est comme s'il n'a pas fait de péché. Mais maintenant, s'il meurt avec le grand péché, si quelqu'un. Un musulman meurt avec un grand péché ou des grands péchés. Un mohim, s'il meurt avec le grand péché, il est, comme on dit en arabe, taht al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, ou bien Allah Ta'ala va lui pardonner et le faire entrer directement au paradis, ou bien va le faire entrer d'abord en enfer, ensuite le faire entrer au paradis. Mais jamais. Il ne restera éternellement en enfer. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça la aqida de Ahl Sunna ou Jama'a. C'est comme ça que vous devez penser et attester dans vos cœurs et avec votre langue aussi. Que celui qui fait un grand péché, s'il meurt avant de faire la tawba, il est sous la volonté d'Allah Azzawajal. S'il veut le faire entrer directement au paradis, lui pardonner, Zalika fadlullah. Ça, c'est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Et s'il veut être yani, adl avec lui, appliquer la justice, alors il peut le faire entrer en enfer, je ne sais pas combien de temps, un jour, 2 jours, 1 année, 100 ans, comme il veut. Ensuite, il le fait ressortir. C'est comme ça. Yani, le madhhab de As-Sunna ou Jama'a. Tayyib. Autre chose, inshallah ta'ala, tafadhal. Afouane, la personne avait demandé quels étaient les grands péchés. Les grands péchés, en fait, ils ne sont pas dénombrables. On ne peut pas dire, par exemple, il y a 40, il y a 100, il y a 400. C'est pour ça que les savants, quand ils écrivent des livres, comme Zahabi, il écrit Al-Kaba'ir, les grands péchés. Il essaye, d'après lui, yani, de donner une liste exhaustive des gros péchés. Mais il peut, des grands péchés, mais il ne peut pas. Il n'y a pas comme ça une liste. Yani, on peut dire c'est celle-là, la liste, yani, la dernière. Non, on ne peut pas. Le grand péché, comme disent les savants, c'est tout péché, qui, yani, lorsqu'on le fait, ou bien, Allah Azzawajal, yani, a dit qu'il devenait en colère contre celui qui le fait, ou bien qu'il le menace du feu, ou bien qu'il dit que Allah Ta'ala ne lui parlera pas, Yawm al-Qiyamah. Ou bien ne va pas le purifier, ou bien ne va pas le regarder, ou bien maudit celui qui le fait, ou bien qui fait tel et tel, est éloigné de la miséricorde d'Allah. Et comme ça, chaque péché, quand tu lis dans le Coran, tu trouves un péché, dans le Coran ou dans la Sunna. Et après ce péché, c'est cité que si tu le fais, voilà, voilà ce qu'il va te faire, t'arriver. Ou bien qu'il y a un had, ça veut dire on coupe l'âme. On le lapide, on lui fait ceci, cela. Tout cela, ça veut dire les grands péchés, bi'idhnillahi ta'ala, puisse Allah Azzawajal nous en préserver.
Question suivante, cher. Question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykoum, cher. On entend beaucoup de frères et sœurs qui disent par ignorance Allah est partout. Allah al-Musta'an. Quelle est la secte parmi celles que vous avez décrites qui défend cette idée qu'Allah est sans endroit? car j'avais lu dans une fatwa que ce sont les Oulouyat qui disent cette parole de mécréance, mais vous ne les avez pas cités dans ce dars. Et enfin, cher, je ne comprends pas pourquoi on continue d'appeler les Ash'arites par cette appellation qui se réfère à Abu Hassan l'Ash'ari, rahimahullah, alors qu'il s'est repenti de cet égarement avant de mourir. Ne devrait-on pas leur donner un autre nom par respect à ce pieux prédécesseur, car c'est un peu comme une personne qui aurait commis un grand péché, puis qui s'en repent, mais à qui on rappelle sans cesse. Wallahu a'lam, barakallahu fikum cher, wa hayyakum Allah. Tfadal cher.
Hayak Allah, toi aussi, barak Allah fik, toi aussi. Je n'ai pas compris, tu as employé un mot. Tu as dit oui ou quelque chose comme ça. Ce mot, je n'ai pas bien entendu. Si tu pouvais le répéter, bi'idhnillahi ta'ala, tfadlan.
Non, mon cher, c'est peut-être moi qui l'ai mal prononcé. J'ai dit Hulouiyat. Allahu alam. Tfadal, cher.
Je ne connais pas ce mot. Oulouiyat. D'un côté, je ne connais pas, je ne pense pas que ça existe. Non, je ne pense pas que ça existe. À mon père. Peut-être que le frère veut dire Houlouliyoun, Al-Houloul. Non, Ibn Arabi et Bastami, Tlemcen, Ibn Farid, Rouhani, Ibn Houd. Peut-être qu'il parle de cela. Ce qui dit qu'Allah Ta'ala s'incarne yani dans les personnes et que tout le monde est uni, Al-Wahdat Al-Wujud. Peut-être qu'il parle de Houlouliyoun. Non. Mais Houlouiyat, je ne connais pas. Je connais un autre nom, le Halawiyat. Halawiyat, ça veut dire les sucreries et les bonbons. Mais je ne crois pas qu'il parle de cela. Al-Muhim. Je reviens jeudi. Ce qui. Non. Donc, c'était la première question. C'était par rapport à ceux qui disent que Allah Ta'ala est partout. Non. Ceux qui disent que Allah Ta'ala est partout. Ce sont ceux qui disent que Allah Azzawajal n'est pas au-dessus du trône. Donc, c'est les Jahmites, Mu'tazilites, et c'est aussi, surtout, les Ash'a'ira, les Ash'arites, Immaturidites. Non, ils disent que Allah Ta'ala est partout, il n'est pas au-dessus du trône. Car, ils disent, si tu dis que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, tu lui as donné une place, tu l'as mis dans un endroit. Or, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Comme ça, ils te disent. Vous avez compris? Où est là? Au-dessus du trône. Donc, tu l'as mis dans un endroit. Donc, Allah Ta'ala, yani, l'endroit est plus grand que lui. Alors que Allah Ta'ala, c'est le plus grand. Et il n'a pas d'endroit. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas permis. C'est pas permis de poser la question et de dire, où est Allah Azzawajal? Alors que Ahl Sunnah ou Jama'a disent que c'est permis. C'est Sunnah même de dire, où est Allah? Naam, c'est permis de tester. Tester, par exemple, ses enfants, tu lui dis, où est Allah, mon fils? Pour voir, yani, s'il sait répondre, il dit, au-dessus du trône. Il va pas dire, il est partout. Non, mais il dit, au-dessus du trône. C'est permis aussi de tester quelqu'un qui fait des dolos, etc. Maintenant, je sais pas quelle aqida il a. Si jamais je parle avec lui, il commence à me poser des questions, moi aussi, je lui pose. Je lui dis, d'après toi, où est Allah? Il va me dire, il est partout. S'il me dit, il est partout, je lui dis, attention à cette personne, il faut pas prendre d'elle de la science. Al-Muhim, qu'est-ce que je disais aussi? Non. Donc, quand le prophète, alayhi salam, une fois, quelqu'un, celui qui croit qu'Allah, par son essence, est sur terre, est en contradiction avec le Coran, ceci est le chemin emprunté par la secte Houlouiyat. Ceux qui disent Allah, il y a dans tous les. Eh, non! Houlouliyoun, Houlouliyoun. Houlouliyoun. Non. Allah est incorporé dans tout lieu. Celui qui dit ceci par ignorance, on lui apprend le jugement. Par contre, si sauf si on ne dit pas par ignorance, celui-ci aura mécru en Allah et il est interdit de prier derrière lui. Al-Muhim. Je disais que quelqu'un, non. Je crois qu'il s'appelle, si je ne me trompe pas, attendez, c'est pas Muawiyah al-Hakami, Sulami. Al-Muhim, quelqu'un, au temps du prophète, avait frappé, yani, une bergère qui était esclave chez lui. Et en islam, quand on frappe l'esclave, on n'a plus le droit de le garder. Il faut l'affranchir. Pourquoi? parce qu'on lui a volé, ou bien le loup lui a volé un quoi, une brebis. Non, il a dit où elle est, elle a dit le loup l'a volé, il lui a donné une gifle. Après, il s'est rappelé qu'il a fait une faute maintenant, donc il doit la franchir. Il est allé demander au professeur comment je fais. Par colère, je l'ai giflé. Il faudrait qu'elle soit musulmane. On a franchi l'esclave musulman. Le prophète Hassan a besoin de savoir si elle est musulmane ou pas. Il lui a dit, qui suis-je? Elle a dit, Rasulullah. Afoun, avant cela, il lui a dit, où est Allah? La première question. Elle a dit, Fissama, dans le ciel. Dans le ciel, c'est pas à l'intérieur du ciel. Ça veut dire vers le haut, au-dessus des cieux. Ça veut dire au-dessus du trône. Il lui a posé alors la deuxième question, qui suis-je? Elle lui a dit, tu as dit Muhammad, le prophète. Il a dit à l'homme, à ce sahabi, qui je crois s'appelle Muawiya, pas Muawiya, l'oncle des croyants, il lui a dit, affranchis-la, c'est une croyante. Les savants disent, regardez comment une bergère, qui peut-être n'a jamais ouvert un livre de Aqidah, mais a su que son Dieu était au-dessus du trône dans les cieux. Et maintenant, vous trouvez des hommes et des gens et des femmes et qui ont des doctorats. Doctorat dans quelle branche? Dans les sciences religieuses. Et tu lui dis, oh Allah, il ne sait pas. Ou bien te dit, il est partout, ou bien te dit, je ne sais pas, ou bien te dit, il faut pas poser cette question. C'est interdit. Non. Pourquoi? Parce qu'il a un doctorat, mais il est Ash'ari. Il est Jahmi, il est Mu'tazili, il est Maturidi, il est Ahbash, il est comme ça. Il n'est pas de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Bien, maintenant, je ne veux pas donner les dalils qu'Allah Azzawajal est au-dessus du trône et comment réfuter pour que je laisse ça spécialement pour un cours. Un cours où, quand on va arriver à l'attribut du ulou, qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. On donne, inchallah, tous les dalils. Juste pour vous dire juste une chose que peut-être il y a des gens qui ne vont pas assister le jour où je vais parler de l'élévation d'Allah. Donc on profite pour dire que, comme ça certaines choses, pour juste les retenir, inshallah ta'ala. Parmi les dalils que les savants ont donnés, à part le Coran et la Sunna, naam, ils ont donné ici aussi des dalils de la raison. De la raison. Regardez parmi la raison qu'ils ont dit. Si tu dis qu'Allah Ta'ala est partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il grandit et qu'il rétrécit, ya'oudou billah. Comment cela? Eh bien, je vais t'expliquer. Tu dis qu'Allah Ta'ala est partout, toi. Tu dis qu'il est partout. Tayyib. Donc, il est dans cette chambre. On ne le voit pas. Il est dans le salon, dans la cuisine, dans la discothèque, dans le cabaret, dans les toilettes, dans le ventre d'un âne. Dans les parties intimes de la femme. Il est partout. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Vous avez compris? En disant qu'il est partout. A'oudou billah, ça veut dire que ça implique tout ce que je viens de dire maintenant. Ensuite, puisqu'il est partout, donc il est par exemple dans cette maison. Il y a une maison en face de moi, une villa. Il est aussi à l'intérieur, puisqu'il est partout. Maintenant, si jamais on va démolir cette villa, démolir pour en construire une autre, quand on l'a démolie, Allah Ta'ala ne sera plus dans cet endroit. Ça, donc il va rétrécir. Lui qui était partout, on lui a enlevé un endroit, donc il va rétrécir. Il n'est plus dans cette maison qu'on vient de démolir. Et voilà, donc une grande preuve, et elle est pour réfuter ce qu'il dit, une preuve de la raison, comme quoi il grandit. Et maintenant là, en face de moi, c'est vide, c'est un terrain. Maintenant, quand je vais mettre une maison, Allah Ta'ala sera à l'intérieur parce qu'il est partout. Donc voilà comment qu'il grandit. Plus je construis, plus Allah Ta'ala grandit. Plus je démolis, plus il rétrécit. Et comme je vous ai dit, il se trouve aussi dans les endroits les plus sales et les plus ignobles. A'oudou billah. Ensuite, dites-moi seulement, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Ta'ala a voulu lui imposer la salat, pourquoi il a fait ce qu'on appelle l'ascension? Non. Il a fait d'abord l'Isra de la Mecque à Palestine. Ensuite, il a fait une Mi'raj. Il est monté vers Allah Ta'ala, ce qu'on appelle l'ascension. Les sept cieux, ensuite une mer, ensuite, yani, comment que ça s'appelle, Sidrat al-Muntaha, le jujubi ou quelque chose comme ça, le lotus là-bas, d'âme. Ensuite, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala n'était pas au-dessus des cieux, pourquoi le prophète islam se serait-il fatigué pour faire l'ascension? Pourquoi il monte? Il est monté premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Pourquoi il monte? Allah ta'ala est partout. Le prophète islam reste dans sa place, dans sa chambre, dans sa pièce où il est, et il parle à Allah. Il lui dit, c'est combien de salat? Il lui dit 50, ensuite on va les descendre à 25, 10, ensuite 5. Pourquoi? Il lui a envoyé Djibril et le Bouraq, l'animal qui est plus grand qu'un âne et moins qu'un cheval. Ensuite, il monte sur lui et il vole et il monte les cieux, etc. Pourquoi tout ça? El Non, donc c'est le Bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, les savants ont dit que l'animal sur lequel il monte, qui s'appelle le Bouraq, c'était pour partir de la Mecque vers la Palestine. Ensuite, ce sont les anges qui ont fait monter le prophète islam vers les cieux. Taïb. Maintenant, reste l'autre question. Est-ce qu'il serait pas mieux de les appeler par leur nom? Comme quoi, ils sont pas des Ash'arites. Naam, ce serait mieux. Mais le problème, c'est que maintenant, ils se sont fait appeler les Ash'arites. Toi, quand tu vas expliquer à quelqu'un, il faut que tu lui dises l'Ash'ira. Parce que maintenant, tout le monde s'est mis d'accord que l'Ash'ira, ce sont ceux qui suivent Abu Hassan l'Ash'ari dans la première phase quand il était dans la faute. Donc maintenant que c'est devenu, yani ça s'est propagé, et c'est devenu connu. Redouane. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Quand je ferme pas le télécom, c'était quelque chose dans El Mohim. Ce que je voulais dire maintenant, khlas, khlas, tout le monde sait qu'il s'appelle Ash'ira. Et normalement, au début, on n'aurait pas dû laisser ça se propager. Quand ça s'est propagé, c'est trop tard. Et quand un nom se propage, c'est très difficile de revenir marche arrière et c'est même pas recommandé car ça risque de donner des perturbations. Je vous donne un exemple. Le prophète alayhi disait dans le disait Ana abdu, ana ibn abdil muttalib, ana nabi wa la kadib. Je suis le fils de Abdul Muttalib. Je suis le messager, je n'ai pas menti. Je suis le fils de qui? Abd al-Muttalib. Serviteur de Muttalib. Muttalib, tu peux pas dire que si tu es serviteur, il faut être le serviteur d'Allah. Ça rentre même dans le shirk. Si tu dis que le Muttalib, c'est, yani, tu es son serviteur, il faut être le serviteur d'Allah. Et le prophète Aslam n'a pas enlevé cette appellation. Comme dit Cheikh Ben Outaymin, là, ça s'est propagé, c'est connu. Tu dis que Mohammed, c'est qui? C'est le fils de Abdul Muttalib. Regardez Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est quoi son prénom? Taqiyuddin. 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 Je vais l'écrire. Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Et pourtant, c'est pas permis de s'appeler Taqiyuddin. Ça rentre dans, Allah Ta'ala dit, fala tuzakku anfusakum. Ne vous faites pas de tazkiyah, purification. Tu es toi Taqi, le pieux. Taqiyuddin. Yani, tu représentes la piété dans le din. Comme des sœurs sont appelées, par exemple, Iman. L'autre, elle se fait appeler Ihsan. Iman, tu es sûr que tu représentes l'Iman, toi? Toi, tu représentes l'Iman, tu ne fais pas de faute. Et toi, l'Ihsan, la bienfaisance. Aya, c'est permis. Non, Aya, c'est permis. Aya, ça veut dire juste Aya. Et ça ne veut pas dire que je me suis donné une purification. Al-Muhim. Shamsuddin, Taqiyuddin, Nasruddin, tout ça, ce n'est pas permis. On a dit à Ibn Taymiyyah, on lui a dit, pourquoi tu te fais appeler? Tu sais que c'est un terme. Nurdin, voilà, la lumière. Je m'appelle la lumière de la religion. C'est pas vrai, tu n'es pas la lumière. Tu es plein d'obscurité, de fautes et de ténèbres. Et Al-Muhim. Cheikh l'Islam lui a dit, pourquoi? Tu sais que c'est interdit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, ça. Mon grand-père m'a appelé autrefois Et ça a marché comme ça, je ne peux plus l'arrêter. Est-ce que Ibn Taymiyyah, il va changer, il va dire, je suis plus Taqiyuddin, je suis Jamal, je suis, disons, Farouk, ou la Mohamed, Mohamed Ibn Taymiyyah. Personne ne va le connaître. Salam alaikum, vous connaissez quelqu'un dans ce quartier, Mohamed Ibn Taymiyyah? Non, il n'y a pas, il y a seulement Taqiyuddin. Si tu veux, on te montre sa porte. Pourquoi? C'est trop tard. Là, ça a marché, c'est parti. Non. La même chose pour Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Comment il s'appelait Al-Albani, rahimahullah? Nasiruddin Al-Albani. Il a dit la même chose. On lui a dit, toi, tu t'appelles Nasiruddin. Zama, c'est toi qui défends le din, Nasiruddin. Il a dit, mon cas, c'est comme le cas de Taqiyuddin Ibn Taymiyyah. C'est trop tard, je ne peux plus revenir marche arrière. Mais si c'était un nom qui contient, par exemple, des blasphèmes, qui contient des gros mots, celui-là, il faut l'enlever de suite. Pour l'enlever de suite. Naam, tfadl. C'est ça la réponse, inshallah ta'ala. Tfadl.
Donc, question suivante, inchallah. Fadilatou Cheikh, m'est-il permis avec plusieurs frères d'étudier Usul Salasa tout en s'aidant du commentaire d'un savant sans rien y ajouter? Jazakumullah khairan. Et concernant les prénoms chers, est-ce que Sakina est autorisée? Fadil Cheikh.
Naam, c'est permis, inchallah ta'ala, pour apprendre. Quand vous voulez apprendre, naam, et vous n'inventez pas des choses, juste vous lisez quelque chose, naam. Yani, juste vous arrêtez à la lecture, naam, et vous demandez entre vous des questions. Et ce qui est difficile, vous dites, après on demande aux savants, c'est permis. Naam, justement, les savants disent, il faut encourager. L'essentiel, vous n'allez pas faire un cours dans une mosquée ou là. Non, c'est juste entre vous, lire un livre et essayer d'apprendre et de poser des questions entre nous et de. On laisse les réponses, ce qu'on ne connaît pas, on va demander. Et comme ça, c'est permis, Inch'Allah ta'ala, comme disent les savants. Naam. Regardez, car ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne font pas comme ça, ils n'apprennent pas, etc., ils passent leur temps à quoi faire? À parler de gens. Du matin au soir. Et qu'est-ce que tu penses de X? Qu'est-ce que tu penses de Y? X, on vient de dire ça sur lui. X, Y, on a dit ça sur lui. L'autre, il n'est pas bien. L'autre, il est ceci. Du matin au soir. Alors que s'ils avaient ouvert un livre pour apprendre des choses, ils auraient appris, mashallah. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de gens. En Algérie, partout. Même en France, il y en a. On m'a dit qu'on a même beaucoup. Ça commence à grandir, on m'a dit. Des gens qui, comme ça, du matin au soir, jamais ils n'ouvrent un livre. Ni aqida, ni tafsir, ni fiqh, ni sirah, ni akhlaq, ni rien. Seulement, il y en a à courir derrière qui vient de tomber parmi les savants. Qui, alhamdoulillah, comme ça on est en content. Alhamdoulillah, X est tombé. X n'est plus un savant, on lui a fait un jarh. On a dit de lui qu'il était mauvais. Alhamdoulillah, il est content. Au lieu de dire, qaddarallahu ma sha fa'al, on a perdu un grand savant. Maintenant, on ne va plus l'écouter jusqu'à ce que ça s'éclaircisse ou qu'il revienne ou la qaddar Allah ma yani on profitait de lui et il est parti. Les autres, non. Masha'Allah. Comme j'ai vu quelqu'un, il a dit à propos d'un frère, quand on lui a fait un jarh, il a dit, comment qu'il a dit, attendez, il a dit, naam, Masha'Allah, quelque chose. Et il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est tombé. Allez. Un autre a dit, le traître, alhamdoulillah, il a été, Allah l'a dévoilé, et comme ça, subhanallah al-azim, un jour, je voulais risquer, a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, sur les gens qui passent leur temps du matin au soir à faire ainsi. Je ne parle pas que il faut pas montrer quels sont les gens qui sont pas bien. Non, au contraire, il faut montrer, ça c'est dans le dîn. Faut que tu ne fais pas comme les autres qui disent ça rentre dans la médisance. Non, c'est pas la médisance. Le prophète Aslam a dit à Fatima bint Qais, il a dit, attention, ne te marie pas avec Muawiya. Il n'a aucun sou. Ni avec Abu Jam. C'est un batteur de femmes. Il bat les femmes. Il n'a pas fait de médisance. En parlant de gens qui étaient absents et il a cité leurs défauts. Ça rentre dans le dîn de dire attention à X. Il a des défauts, il est majrouh, il est ceci. Mais moi, je parle de celui qui fait de cela son dîn. Naam. Mon dîn, c'est du matin. Depuis que jusqu'à la Isha, je ne parle que de cela. Je ne parle ni aqida, ni rien. Et ça existe. Et on les a côtoyés ici en Algérie, dans ma mosquée moi-même. Et, subhanallah l'adim, aucune personne de ces gens-là n'est restée jusqu'à présent. Tous, ils ont abandonné la salat, enlevé la barbe, jeté le khamis et sont partis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je vous dis? L'islam, l'iman, tu as quelque chose dans ton cœur, comme un feu éveillé, naam. Et ce feu, cette lumière dans ton cœur, c'est le ʿin, le que Allah Ta'ala a fait descendre au nord. Ça a besoin de lecture, que tu lises, que tu apprennes. Maintenant, toi, tu fais rien. Tu stagnes. Toujours en parlant de X a fait ceci, Y cela, X en a dit de lui ceci, Y cela. Donc, le feu qu'il y a dans ton cœur ou la lumière commence à s'éteindre petit à petit. Tu ne lui jettes pas le feu, tu ne lui jettes pas le bois qu'il doit consommer. La lumière que tu as dans le cœur, tu ne lui donnes pas les livres qu'il faut lire. Naam. Donc, elle n'écoute rien. Il n'y a rien de nouveau. Donc, tu commences à s'éteindre, s'éteindre, s'éteindre. Et un jour, tu dis, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Du matin au soir, je ne parle que de gens. Je ne fais jamais de hasanat. Je n'ai jamais rien appris dans le dîn. Et entre moi et quelqu'un qui ne prie pas, il n'y a pas de différence. Donc, autant que je jette tout et que je fasse aussi les choses interdites. Pourquoi me priver de l'alcool et des femmes et de je ne sais pas quoi? Allez, je fais comme eux, Ikhlas. Audoubillah, ils vont de l'autre côté. Un jour, je vais vous lire, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen sur ceux qui font comme ça. Du matin au soir, qui courent derrière les gens pour leur faire le jarh et qui ne veulent pas apprendre leur religion. Pour Sakina, ce que je sais, c'est que le vrai, c'est de l'appeler Soukaina. C'est pour ça, Alhamdoulilah. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Soukaina. Donc, c'est ça son vrai prénom. Maintenant, si après ça se déforme, ça devient Sakina, l'alam. Mais on l'appelle Soukaina. Comme la fille de qui? De Hussein. Hussein, radiallahu ta'ala anhu, le fils, le petit-fils du prophète Islam, avait une des filles qui s'appelait Soukaina. Qu'est-ce qu'il dit? Imen. Non, Imen, non. Imen, ça rentre dans la tezkiya. Imen, ça rentre dans la tezkiya. Quand tu dis Imen, Imen vient de rentrer. Qui est à la porte? Imen. Ah bon? Non, c'est elle qui vient de rentrer. Imen vient de rentrer, c'est pas possible. Non. Si Imen rentre, ça veut dire Badr des Astres. C'est la lumière, le Badr, c'est la lune du Din. Non. Vous avez compris? Imen vient de rentrer, Imen vient de sortir. Non. C'est pas Imen. Imen, c'est il n'y a pas de faute. Vous avez compris? Il n'y a pas de faute. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlan.
Question suivante. D'ailleurs, cher Allah, je ne sais pas si c'est un souvenir que j'ai ou je me trompe. Je ne sais pas si vous avez une fille qui s'appelle Fatima et à l'époque vous l'aviez appelée Fatim Zahra et vous aviez su par la suite que c'était des chiites qui appelaient comme ça Allah, et vous avez modifié. Allah, si je me rappelle ou bien si c'est quelqu'un de votre famille. Je voulais la question suivante, cher. Question d'une sœur. Je voulais vous demander, pour une personne qui débute dans l'apprentissage du tawhid et de la aqida, quel livre lui conseillez-vous pour qu'elle puisse comprendre facilement? Jazakumullah khairan. Tfadal cher.
Naam, cette Fatima est maintenant mariée, ils sont mariés avec nous dans le salon. J'espère que j'espère que tu n'es pas dans le même quartier. T'es en Algérie, sinon, hein? Un mouhim. Sah, Zahra. Zahra, Fatima, Zahra. Zahra, naam, on n'appelle pas comme ça en islam. Ou plutôt, ce sont les chiites, les rawafid, qui nomment ainsi la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en vérité, elle ne s'appelait que Fatima. Et nous, et plusieurs de nous qui ne savent pas, ajoutent Zahra, Fatima Zahra, en croyant que c'est ça son vrai nom. Comme ça, je croyais que c'est son vrai prénom. Ensuite, j'ai appris que elle ne s'appelait que Fatima et que Zahra, ce sont des rawafid qui l'ont ajouté, qui l'ont ajouté. Naam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a changé le nom de deux de ses femmes. Zaynab bintou Jahsh, qui s'appelait Barra. Barra, ça veut dire la pieuse. Elle fait le birr. Naam. Elle fait le birr. Il l'a appelé Zaynab. Naam. Il l'a appelé Zaynab. Et aussi, une deuxième femme, Jouairiya aussi.
qui s'appelait Barra aussi, la même chose, il a appelé aussi d'un autre prénom. Naam, tfadlal.
Amcha, vous n'avez pas répondu à la question concernant les conseils sur une personne qui débute dans l'apprentissage du tawhid et de la aqida et concernant le timer, cher. Vous n'en avez pas parlé non plus. Tfadal, cher.
Naam, le timer, puisqu'on est dans la aqida, chez moi il est 22h30. On arrête à 23h, inshallah. Chez 22h30. Si quelqu'un commence par la aqida, qui commence par les livres simples de aqida. Naam, qui commence par les livres simples de aqida. Comme il lit par exemple Usul Thalatha. Et qu'on appelle exactement Thalathat Usul. Thalathat Usul. Naam. الأصول الأربعة، قواعد الستة. نعم، il commence par les petits livres et il va pas directement par exemple la Tahawiyya ou bien Safarinia. Non, il commence par les petits livres et à chaque fois il s'approfondit. À chaque fois il commence à s'approfondir. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. L'essentiel c'est qu'il lise les vrais livres. Il ne lise pas des livres faux où il y a une fausse aqida et faux minhaj. C'est ça l'essentiel. Même s'il n'apprend pas beaucoup. Même si tu n'apprends pas beaucoup, mais tu apprends le vrai. C'est mieux que d'apprendre beaucoup, mais tu as appris le faux. Car le faux, après, c'est difficile pour te l'enlever de ton cœur. Mais celui qui a juste un petit ilm, un petit peu, mais ce peu est vrai, hein, conforme à la charia, c'est l'hamdoulillah. C'est tout ce qu'il a fait comme effort, mais l'hamdoulillah. Mais il est mieux que celui qui connaît beaucoup de choses, mais ces choses sont fausses. C'est pour ça que les savants disent, il y a ce qu'on appelle le jahil al-basit et le jahil al-murakkab. Là où jahil murakkab, jahil basit et jahil murakkab. C'est-à-dire il y a l'ignorance simple et l'ignorance complexe. L'ignorance simple est beaucoup mieux que l'ignorance complexe. L'ignorance simple, tu dis à quelqu'un, c'est combien qu'il y a d'unité dans Salat al-Dhuhr. Il te dit, je sais pas. On dit de lui, c'est un ignorant, il a une ignorance simple. On lui pose la deuxième question. On lui dit, quel est le mois que les musulmans doivent jeûner? Il te dit, je ne sais pas. On dit, il est ignorant, mais il a une ignorance simple, parce qu'il ne sait pas. Mais celui qui a une ignorance compliquée, complexe, afouane, tu lui dis, Salat al-Dhuhr, c'est combien d'unités? Il te dit 3, ou alors 5. Quel est le mois que les musulmans doivent jeûner? Il va te dire Muharram au lieu de dire Ramadan. Le premier est mieux que lui. Pourquoi? Le premier, il a dit tout juste, je ne sais pas. On va lui apprendre et il va apprendre. Le deuxième, non. Il faut que tu lui enlèves de son cœur que Salat al-Dhuhr, ce n'est pas 3 ni 5. Ensuite, pour lui apprendre que c'est 4. Et lui enlever de son cœur que ce que. Le mois qu'on doit jeûner, ce n'est pas Muharram, mais le Ramadan. Pour lui enlever de son cœur, ce n'est pas facile. Des fois, ça s'enlève, des fois, ça ne s'enlève pas. C'est difficile. Naam. Tfadal.
Question suivante. Ahsanallah alaykoum, cher. Quel livre pour approfondir et réfuter les sectes qui se sont égarés dans la signification des noms et attributs d'Allah, barakallahu fikoum, ahayakoum Allah. Tfadal, cher.
Je ne connais pas. En arabe, il faut lire l'Wasitiya, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, mashallah, expliqué aussi par Salah al-Sheikh. Il faut lire Tahawiyya, mashallah. Il faut lire Tadmouriya, naam, de Cheikh l'Islam. Et c'est aussi expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Mais en français, je ne sais pas quels sont les livres qu'il y a sur cette chose. Naam. Ou là, sur ce contexte-là. Sur ce contexte. Sinon, en arabe, vous pouvez lire aussi un livre qui s'appelle Lum'atul I'tiqad. Et Sharh Lum'a aussi de Cheikh Ibn Uthaymeen. Le livre, c'est de Al-Maqdisi. Expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, Luma. Naam. Et je pense que ce livre, ça existe même en français. Et même moi, d'ailleurs, je l'ai en français. Je crois qu'il s'appelle, c'est une bonne mémoire,
le substantifique du credo. Le substantifique du credo. Expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. De toute façon, nous, inshallah ta'ala, on va arriver là avec des détails, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Une sœur demande, Ahsanallahu ilaykum cher. Actuellement, nous apprenons Usul Salasa en arabe. Étant non arabophone, nous écoutons avec le charh de Cheikh Al-Fawzan, traduit par notre frère Talib Ilm Suleyman El-Haïti. Alhamdulillah. Seulement, j'ai une question dans la partie où Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, parle des catégories d'adoration que l'on doit vouer uniquement à Allah Azzawajal. Les traductions en français sont proches et j'ai du mal à distinguer parfaitement. Pouvez-vous m'éclairer en me donnant un exemple pour chaque cas, en m'expliquant la différence, inshallah? C'est surtout avec El Khashiyatu, El Khawf, le Khushu, et avec Ghalhabatu, désir, et Ghalabatu, amour. Voici les termes en arabe. Cher, si vous voulez, je vais arabe. Ce sera certainement mieux, Inch'Allah. Pas d'al, cher.
Non, il y a des choses. Non, il y a des choses, comme vous savez. Si vous vous rappelez d'ailleurs, c'est ça, en même temps bénéfique pour réviser un peu. La fois passée, on avait parlé, si vous vous rappelez, on avait dit qu'en islam, il y avait la parole et il y avait les actes. Et que dans la parole, il y avait la parole de la langue et la parole du cœur. Si vous vous rappelez. Et le cœur a des paroles et des actes. Amal ou aqwal. L'aqwal, on avait dit, c'est ce qui l'atteste. L'unicité d'Allah, le paradis, l'enfer, ceci, cela. L'amal, c'est ce qu'il fait. Comme ici, al-raghba, al-rahba, al-khushu'a, al-khashya, al-inaba, al-isti'ana, al-isti'ada, al-istirasa. Ces choses, 2, 4, 6, 8, ne doivent être qu'Allah Azzawajal. Qu'Allah Azzawajal. Mais en même temps, c'est permis. C'est permis. Que ce soit aussi envers des hommes, mais dans un autre contexte. Dans un autre contexte. Pour expliquer maintenant les huit et donner à chaque fois un exemple, c'est un peu difficile. Mais en allant vite, on va dire par exemple, on va prendre la première, Rahba, le désir. Ce que veut dire ici le shir, c'est que est-ce que vous étiez en train de m'écouter ou bien je parlais dans le vide? Je remarque que je n'avais pas de micro. Vous écoutiez, alhamdoulilah. Al-raghba, le désir. Je ne dois désirer aucune chose plus que désirer Allah Azzawajal et ce qu'il a. C'est-à-dire, c'est permis de désirer de l'argent. C'est permis de désirer avoir des enfants. C'est permis de désirer avoir un diplôme. Naam. C'est permis. Mais, à la base, aucune chose dans la vie, je ne dois la désirer, naam, plus que désirer ce que Allah Azzawajal. Désirer d'être son serviteur. Désirer de l'adorer. Désirer son paradis. Désirer son ravissement. Et comme ça. Je sais huit choses ici, je sais huit, disons, actes du cœur. Je dois d'abord les vouer exclusivement à Allah Azzawajal. Ensuite, yani, vouer ce qui est permis, yani, aux hommes de le vouer, ça ne fait rien. Mais jamais ça ne doit être autant que par rapport à Allah ou bien plus, jamais. Ensuite, rahba, par exemple, la peur. La peur. Je ne sais pas comment c'est traduit en français pour faire la différence entre le khashia et le rahba. Rahba, c'est-à-dire, par exemple, fuir d'une chose. Fuir d'une chose. Naam, c'est permis de fuir d'un lion. C'est permis de fuir de qui? De fuir de quelqu'un qui veut m'agresser. Moussa alayhi salam a dit dans le Coran, fa farartu minkum lamma khiftukum. Il a dit, je me suis enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. C'est permis de s'enfuir pour ne pas être tué par quelqu'un. Mais en fait, la vraie, disons ainsi, si je trouve le mot, la vraie fuite, c'est de quoi? C'est de s'enfuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, fafirru ila Allah. Il a dit, fuyez vers Allah. Subhanallah al-Azim, Allah azza wa jal, on fuit pas de lui, mais vers lui. On fuit pas de lui, mais on fuit vers lui. Naam. Et je ne dois, voilà, la peur et la crainte. Jamais je ne dois, comme je dois craindre Allah Azza wa Jal. Vous avez compris? Et comme ça, dans toutes les choses, je dois vouer exclusivement à Allah Azza wa Jal, et ce qui est permis, hein, je le fais dans les choses normales. Ça ne doit pas être égal ce que je ressens envers Allah, ni plus élevé. Wallahu ta'ala alam. Pour ne pas donner à chaque chose, il sera du temps, inshallah ta'ala. Tfadlal.
Question suivante. Pour quelle raison un pays
Naam, comme il a donné aussi à la fin, il a dit l'isti'ana, le fait de demander de la istighatha, le fait de demander. Naam, ces choses, on les demande qu'à Allah Azza wa Jal. Mais aussi, comme j'ai dit, c'est permis de demander de l'aide à quelqu'un qui peut m'aider. Si je suis dans un puits, il y a quelqu'un qui passe. Naam, je lui dis, hey, oh, hey, quand il m'entend, je lui dis, tu peux me jeter. Naam, et si quelqu'un, je suis en train de me bagarrer. Naam, quelqu'un veut me frapper. Je peux demander de l'aide à un ami ou à un policier. Je lui demande de l'aide. Naam, comme si c'était dans le Coran. L'aide, et il est allé l'aider, comme si c'était dans le Coran. Ça. Parce que c'est permis, mais à la base de l'aide, de qui je la demande d'abord? Je la demande d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala ne m'aide pas, personne ne peut m'aider. Je mets dans mon cœur que c'est Allah ta'ala qui doit m'aider. Ensuite, je prends des esbabs. Et comme ça, bi'idhni ta'ala, c'est coupé.
Madame, je vous répète la question. Question d'un frère. Pour quelle raison un pays comme le Maroc a été influencé par le hachaïsme? Ils sont beaucoup influencés également par les frères musulmans. Y a-t-il un lien?
Taïeb, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? J'ai dit Maroc, l'Algérie, non, l'Algérie, la Tunisie. Mais par exemple, le soufisme, il bat son plein au Maroc et ensuite en Algérie. D'abord le Maroc, ensuite, deuxième position, l'Algérie. Al-Muhim, le ash'arisme, comme vous savez, s'est beaucoup développé dans le Maghreb. Car la plupart des savants d'autrefois qui sont venus prêcher dans le Maghreb, quand je dis Maghreb, le grand Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, la plupart des savants qui sont venus prêcher, étaient des Ash'arites. Vous savez sûrement que dans le Maghreb, le fiqh, le qui est le plus répandu, c'est le fiqh de Imam Malik rahimahullah. Contrairement à l'Égypte, il y a le fiqh de Shafi'i et Abu Hanifa. Et contrairement aux nazis et au Pakistan, etc., où il y a le fiqh de Abu Hanifa. Et Afghanistan, etc. Al-Muhim, les élèves, pas ses élèves à lui, hein, mais ceux qui disent on est malikite, c'est-à-dire on suit le rite malikite, la plupart, disons à 80%, 90%, ont une aqida ash'arite, dont l'imam Malik rahimahullah se désavoue, ainsi que les grands élèves de l'imam Malik qui l'ont suivi, Ibn Abdul Barr et les grands, ceux-là se désavouent de cette aqida. Mais quand même, beaucoup d'eux sont des ash'arites et ont habité le Maghreb et ont propagé de Et quand je dis ash'arite, ça donne obligatoirement aussi soufi. Et quand tu dis soufi, ça donne quoi aussi? Ça donne frère musulman. Car les frères n'ont pas l'aqida des salafs. N'ont pas l'aqida des salafs. Donc ils vont bien s'entendre avec les soufis. Si les frères musulmans avaient l'aqida des salafs, ils seraient entrés en guerre avec les soufis. Naam, donc ils ne seraient jamais devenus soufis. Mais maintenant, puisque eux aussi, naam, n'ont pas l'aqida la vraie, ils sont devenus aussi soufis, ils se sont mélangés avec les soufis, et ça a donné cette khalouta et cette salade. Badlan.
Question suivante, question d'une sœur. Cher, vous êtes texte relatif aux noms et attributs au sens apparent, mais je n'ai pas bien compris dans le verset suivant. Et les Juifs disent: la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Ce qui est sous-entendu par la main d'Allah, n'est-ce pas la miséricorde, la générosité? Ahsanallahu ilaykum shaykhana. Tfadal shaykh.
Il y avait quelques coupures. J'ai pas bien entendu la Oussamat.
Non, cher, je la répète, Inch'Allah. Cher, vous avez dit que certains interprètent les textes relatifs aux noms et attributs de manière à les détourner de leur sens apparent. Mais je n'ai pas bien compris dans le verset suivant. Et les Juifs disent: la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Donc elle dit: ce qui est sous-entendu par la main d'Allah, n'est-ce pas la miséricorde, la générosité? Donc ça, c'est la question, cher. Et elle dit: Ahsanallahu ilaykum, cherhana. Tfadal, cher.
J'ai la main levée, puisqu'on est en train de parler de la main. Maintenant, j'ai ma main qui est levée. J'essaie de la... Une seconde. Voilà, alhamdoulilah. D'abord, aujourd'hui, je suis content. Même les sœurs, alhamdoulilah, par l'aqida. Jusqu'à présent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pris. On a encore dit... Aucun coup. Présent, ni'ma, pas encore eu de dit. Alhamdoulilah. S'il y a des coupures, dites-moi, je saurai important. Non, c'est très. Voilà, je saurai. Je reviens. Vous m'entendez, Inch'Allah. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala a cité le verset. Où il a que sa main était fermée. Oulayadou billah. Tayyib. La personne dit: est-ce que ça ne veut pas dire ici la main, ça ne veut pas dire qu'il est généreux, etc. On dit. Attention, faut bien faire attention et bien écouter ce que je vais dire et bien faire la différence entre les deux. Si tu dis que Allah Ta'ala ici, Naam, parle de la générosité, qu'il est généreux contrairement aux juifs qui ont dit qu'il était avare, et en même temps veut nous prouver qu'il a une main, Naam, qu'il a l'attribut de la main, on te dit Masha'Allah. Tu fais partie de Al-Sunnah al-Jama'a. Car Al-Sunnah al-Jama'a explique le Coran avec aussi les implications. Naam. Comme on dit en arabe, bidalalat al-mutabaqa al-tadhammun al-iltizam. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça, justement, ce verset expliqué par Cheikh Salah al-Sheikh aussi, dans son livre, quand il a expliqué l'Wasitiya. Il a dit par implication. Donc, regardez la différence entre nous, Inch'Allah ta'ala, al-Sunna al-Jama'a, Inch'Allah, et les sectes égarées, Ash'arites et autres. Ash'arites et autres, il va te dire, la main ici, dans le verset, sa main est ouverte, largement ouverte, ça veut dire la générosité, la miséricorde. Tu lui dis, et ça veut dire que Allah Ta'ala a une main. Il te dit jamais. Non. Il voulait dire qu'il était généreux. Les Juifs ont dit, il est avare. Il a répondu, non, je suis généreux. Il a employé la main. Nous, El Sunna ou Jama'a, on lui dit, smahli, smahli. Allah Ta'ala, s'il voulait dire seulement qu'il était généreux, il aurait pu dire, Naam, je suis généreux. Ana Kerim, Rahim, miséricordieux. Il peut employer ses attributs. Pourquoi il a choisi la main en employant la main? On va lui dire, ça, il veut dire ici qu'il est généreux, mais avant cela, il veut dire que j'ai l'attribut de la main. Voilà la grande différence entre nous et les autres. Les autres, ils disent, il voulait dire seulement ça. Et nous, on dit non. Il veut dire qu'il a la main, plus par implication qu'il est généreux et miséricordieux, etc., etc. J'espère que j'ai clair, hein? J'espère que c'est clair. C'est très important. C'est très important. C'est un peu, regardez, c'est un peu comme le verset où Allah Ta'ala a dit, regardez, donnez-moi une seconde, puis c'est important. Je cherche le verset, une seconde. Yadullah, regardez ce verset. Yadullah fawqa aydihim. Regardez ce verset. Yadullah. Bon, moi, si je vais trouver ça, Yadullah fawqa aydihim. Bon, je vais écrire Foka. Voilà. Regardez ce verset. Dites-moi si c'est affiché. Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'un Allah. Yadullah Foka idihim. Faman nakatha fa innama yankutu ala nafsih. Tayeb, regardez ce verset. Barakallahu fikoum. C'est très important. Regardez. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole, etc., à la fin du verset. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naam, il posait sa main et les autres, yani, mettaient sa main au-dessous de sa main. Allah Ta'ala leur a dit, ceux qui te prêtent, ya Muhammad, serment d'allégeance, ne font que prêter, yani, en même temps, ils prêtent serment à Allah. Pourquoi? Car la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Alors que, il y avait la main du prophète, sallam, au-dessus de leurs mains. Allah Ta'ala voulut dire que au-dessus de la main du prophète, il y a la main d'Allah Azzawajal. Quelqu'un va dire ici que c'est quoi? Tu vas lire dans Tafsir Ibn Kathir. Il va te dire que c'est pour fortifier l'allégeance. Toi, quand je te dis, écoute, viens me faire serment, c'est-à-dire le prophète qui dit, il te dit, viens me faire serment, en mettant ta main sous ma main, tu as mis ta main sous la main d'Allah. Ça va faire quoi en toi? Ça va fortifier l'allégeance. Tu vas dire Allahu Akbar à ce point. Donc je viens faire l'allégeance. C'est vrai, c'est pour fortifier l'allégeance, comme ça a dit Ibn Kathir. Mais, ça veut dire aussi que Allah Ta'ala veut dire qu'il a une main. Naam, par implication. Par implication, Allah Ta'ala veut dire que, quoi? Il a la main. Et bien sûr, la main est claire dans d'autres versets où il dit pourquoi tu ne t'es pas prosterné à mes deux mains. Et le verset où il a dit qu'il a créé Adam de sa main, il est hadith. Naam. Mais ici aussi, ici, même si la main, pour insinuer la fortification, naam, de l'allégeance, c'est aussi pour dire qu'il a une main. Les autres, les Ash'arites, etc., il te dit, ici, c'est pour fortifier l'allégeance. C'est pas pour dire que Allah Ta'ala a la main. Voilà la différence, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'espère que vous avez compris que comment on doit attester la main et ensuite attester aussi l'implication. Ça implique ici fortification de l'allégeance, là-bas, ça implique la générosité, comme ça. Contrairement à ceux qui disent non, c'est seulement la générosité là-bas et ici, c'est seulement la fortification de l'allégeance. On dit non. D'abord, la main, c'est très important. L'attribut de la main. Dites-moi, les admins, est-ce que c'est compris ce que je dis? Vous parlez à la place des autres. vous les représentez. Est-ce que vous avez compris? Mohamed Jazé, vous avez compris, alhamdoulillah. Alhamdoulillah. Dans le prochain cours, inchallah ta'ala, on en reparlera davantage. Et toujours la aqida, et la aqida jusqu'à la mort, inchallah ta'ala, na'am. Et on veut rencontrer Allah Azza wa Jal qu'avec une bonne aqida. Car celui qui va le rencontrer avec une fausse aqida, même s'il a prié beaucoup, jeûné beaucoup, ça va ne lui servir à rien. Tu rencontres Allah ta'ala avec une bonne aqida. Et tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres, mieux que de le rencontrer avec des montagnes de d'œuvres, mais la aqida était fausse. Naam. Puisse Allah Azza wa Jal nous apprendre notre aqida. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصمدي ان شاء الله تعالى.